personnelle et collective. Donc, alors, je vous présente mon camarade qui animera avec moi cette séance, cette petite introduction linéaire. Nos intervenantes, première intervention, ce sera celle de Marie-Laure Bousquet, féministe, qui se présentera un petit peu plus à la même, Marie-Laure. Marie-Laure Bousquet, qui nous vient de la région de Saint-Étienne, féministe, ce qu'on pourra appeler historique, qui ont participé au mouvement du Black, mouvement de libération contre l'avortement et la contraception, qui est donc féministe, qui est co-présidente du collectif féministe pour l'égalité, donc un collectif qui est né dans le contexte des débats de la loi du 15 mars 2004, et qui mobilise des femmes d'appartenance diverses sur finalement deux invariants, qui sont d'une part l'égalité homme-femme, et d'autre part, le droit de choisir sa voie d'émancipation, par-delà des appartenances particulières, mais surtout au-delà d'un modèle imposé, qui serait prétendument le seul universel pour faire ça. Donc voilà, elle est par ailleurs beaucoup de choses, donc je la laisserai se présenter, qui nous fera donc une intervention autour donc de réflexions et d'actions qui sont internes à l'islam. Je ne sais pas si je puis dire que Marie-Laure est convertie depuis une vingtaine d'années à l'islam. Et en même temps, donc, elle interrogera un petit peu la constitution d'un espace de lutte récent, féminin et féministe, notamment sur la base de nouvelles interprétations des textes islamiques. Voilà. Une seconde intervention de Monique Rinon, militante féministe, historique aussi. C'est juste en fait pour faire l'injonction pour dire que nous, féministes qui prenons la relève, nous nous inscrivons dans ces luttes de nos aînés. Voilà, non. Donc, qui interrogera donc, dans son intervention l'histoire des rapports entre laïcité et féminisme, et particulièrement donc, dans un contexte de visibilité accrue de l'islam et des musulmans musulmanes. Voilà mesdames, pour votre présentation, je vais vous présenter. Pierre, si tu veux dire un petit mot sur...
un petit mot de bref sur l'organisation de la séance. D'abord, je veux insister sur ce que Ismaël a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes ici dans un lieu de débat ouvert,
oui, mais dans l'espace... C'est... J'ai oublié de me présenter. Je suis Ismaël Schuder, la secrétaire générale de la Commission Islam et laïcité. Et co-présidente par ailleurs du collectif des féministes pour l'égalité.
Et moi qui ne suis pas co-présidente des féministes pour l'égalité, bien que féministe de cœur, nous sommes là dans un espace de débat, de discussion, mais dont la circonférence est nettement définie. Cette circonférence, c'est que nous sommes ici dans un endroit où n'ont pas leur place une apologétique inconditionnelle de... ce n'est pas le lieu, il y a des endroits où on peut faire cela, mais ce n'est pas ici le lieu. Ce n'est pas non plus le lieu d'une dénonciation de l'islam en tant que tel. Ce qui nous intéresse, c'est les interfaces, disons, entre la diversité des croyances musulmanes et d'autre part, la laïcité et le féminisme. Donc je crois qu'il faut véritablement circonscrire le débat dans cet espace. Pour ce débat, je vous propose de l'organiser par deux interventions successives dans l'ordre de Marie-Laure Bousquet et ensuite de Monique Rinon, d'environ 20 à 25 minutes, ce qui nous laissera pas mal de temps pour ensuite débattre très largement. On prendra quelques interrogations, questions, et ensuite elles répondront à ces interrogations et ces questions. Voilà, en espérant donc, et je n'en doute pas, que ce débat sera fructueux. La parole est d'abord à Marie-Laure Bousquet.
Oui, parenthèse, j'ai encore oublié, pardon, d'exprimer notre présidente, donc Sonia Dallaire-Herzin, qui est souffrante actuellement et donc qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, et auquel ce thème se veut particulièrement.
Est-ce qu'on enregistre ou pas la séance ? Comme c'est souvent le
Non, je ne suis plus en formation. C'est quoi ? Oui, autre point d'ailleurs de fonctionnement, c'est très bien que ce soit soulevé. On m'a demandé, justement par mail, parmi les inscrits, s'il était possible donc, d'enregistrer sous forme vidéo ou audio. Donc j'ai répondu de manière à ce soit dans la plus grande transparence que les enregistrements audio n'étaient le fait que des membres du bureau de la commission Islam et Laïcité et qu'il était tacitement convenu donc, entre les membres du bureau que nous ne faisions pas d'enregistrement vidéo.
Mais ce sera voilà. Sur le site.
Mais ce sera mis en ligne sur le site, voilà, www.islamlaïcité.org. Tous nos enregistrements.
C'est une question de propriété intellectuelle.
Le moment qu'elle a commencé à enregistrer juste après, il n'y a pas le droit.
Bah, c'est pas une question de droit, c'est une question de convenance. Ouais.
Voilà.
Non,
mais.
J'ai déjà fait des enregistrements pour moi personnellement.
Oui.
Mais là,
tu es membre du bureau, Martine.
Mais non, c'est pas question du bureau, mais on a été saisi d'une demande, on y a réfléchi. Et on a pensé que là, il s'agissait même de faire un film ou de choses comme ça. On n'est pas mûr pour ce truc-là.
Voilà.
Donc je propose qu'on règle simplement cette question-là avec l'engagement de notre part que l'enregistrement figurera sur le site. Donc vous pouvez le prendre sur le site, vous serez informé. Et en contrepartie, ça veut dire, puisqu'on a refusé aux uns, on ne va pas l'accorder aux autres. Hein. Je crois que ce serait plus convenable que vous arrêtiez votre...
Non, mais
c'est simplement une question de...
Parce que la question a été...
Vous l'aurez, hein, l'enregistrement, à supposer que votre truc, là, il marche, oui.
Donc la règle est établie pour tout le monde, il n'y a pas d'autre enregistrement.
Et c'est ça l'enregistrement.
Je rajouterai peut-être deux ou trois choses par rapport à la présentation uniquement pour que je ne sois pas une espèce d'abstraction, c'est-à-dire que j'ai été dans l'enseignement à l'éducation nationale, comme prof d'anglais pendant longtemps, enfin 40 ans, presque, que je suis à la retraite depuis quelques temps, et que par ailleurs, sur les plans avec les engagements féministes qu'on a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup et je continue à être dans d'autres engagements et un autre qui me tient beaucoup à cœur et que j'aimerais simplement mentionner ici, c'est celui des femmes en noir. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le mouvement international des femmes en noir, mais c'est plus un engagement, en fait, à la fois un engagement de femmes et politique par rapport à la question Israël-Palestine. Et enfin, la dernière chose, c'est que je ne suis pas du tout parisienne et que quand je suis arrivée là, juste comme petit détail, quand je suis arrivée là à la sortie du métro, j'ai été contente de découvrir qu'il y avait une place Le Corbusier juste là, à la sortie, en rue de Sèvres. Et comme je vis dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, dont je ne suis pas originaire du tout, mais j'habite un immeuble Le Corbusier, au sein duquel, entre autres, sur les plans de notre lutte féministe, nous avons été dans des engagements extrêmement vivants pendant longtemps. Et enfin, la dernière chose par rapport à mon engagement dans l'islam, je ne savais pas s'il fallait que je le présente en avant ou à la fin ou même pas. On n'est pas obligé on n'est pas sous la dictature des définitions. Mais c'était simplement par rapport au fait que quand on parle, on parle de quelque part bien sûr, et que il y a eu des tas d'expériences de gens qui, en prenant la parole, en se présentant comme ça d'emblée, en disant qu'ils étaient ça, ça et ça, automatiquement, une partie de leur parole était automatiquement dévalorisée, déscientificisée, parce que, soi-disant, ce n'était pas objectif, etc. Je vais donc essayer de présenter ce qu'on m'a demandé de présenter, la partie, donc, islam et féminisme. Eh bien, vous jugerez par la suite si c'est objectif, subjectif, intéressant ou pas. Alors, je voudrais d'abord dire que j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps, et c'est la chose que j'ai, qui est devant vous là. C'est le numéro 5 de la revue de l'autre côté, que je ne connaissais pas, qui est la revue de l'Union des Juifs, de l'UJFP, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, l'Union des Juifs Français pour la Paix, qui a une revue qui s'appelle « De l'autre côté », et que j'ai découverte grâce à une amie des Femmes en Noir, du reste, de Lyon, et qui me dit, tu sais, dans le dernier numéro, il y a une chose sur islam et féminisme. Alors j'ai dit, bon, alors ça tombe très bien, c'était juste avant que j'arrive. Donc je me suis procuré la revue. Et elle est sur Gaza. Alors oui, je ne veux pas que vous voyez ce Gaza à l'envers. Elle est sur Gaza parce que c'est de l'autre côté, donc l'autre version par rapport à Gaza. J'ai trouvé cette revue, enfin ce numéro-là en tout cas, remarquable, absolument remarquable, et deux articles qui sont ensemble dans la revue, enfin ensemble, à plusieurs endroits de la revue, l'un en début et l'autre au milieu. Le premier, il est de Judith Butler. Alors pour les personnes qui connaîtraient Judith Butler ou pas, c'est une des grandes figures d'aujourd'hui, juive nord-américaine qui travaille beaucoup, féministe, qui travaille beaucoup les questions essentialisme, anti-essentialisme par rapport aux questions de genre, justement, des constructions de genre. Et c'est dans sa présentation, qui sont les juifs. Donc voilà, et l'autre donc sur islam et féminisme avec trois intervenantes, Asma Lamrabet, donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, Zahra Ali et Nakhla Shahal. Zahra Ali qui est, que nous connaissons, enfin qui habite à Rennes, ouais, c'est ça. Et alors j'ai trouvé cette coïncidence très heureuse, parce que pour sortir d'une logique essentialiste, comme l'a dit tout à l'heure Ismaan, elle dit dans son article, Judith Butler, qu'elle cherche à penser la question des alliances, parfois difficiles mais nécessaires, entre les différentes minorités, notamment sexuelles et religieuses. Et par ailleurs, elle travaille actuellement sur la critique de la violence d'État dans la pensée juive. Ça, c'est tout dans son article que je vous recommande fortement. Et Zahra, donc, qui commente son article sur islam féministe, et elle dit comme son introduction est la suivante. Au confluent d'histoire et de lutte qui semblent se contredire, à la croisée d'identités perçues comme paradoxales, les féministes musulmanes interrogent et dérangent. Ici, on questionne le caractère féministe d'une religiosité revendiquée et là, le caractère islamique d'un concept appartenant à l'autre occidental. Ainsi, dit-elle, le féminisme islamique ne se pose qu'en termes interrogatifs. Est-il possible ? Existe-t-il ? Alors, autrement dit, islam et féminisme posent la question d'un... C'est très important pour moi, la question d'un ébranlement des certitudes d'une pensée identitaire féministe et musulmane, un bousculement côté féministe du paradigme dominant, entre guillemets, de gauche progressiste de la liberté et de l'égalité, et côté islam d'un dogmatisme sacralisé des interprétations et lectures forgées à travers le temps comme des vérités immobiles. Il s'agit donc de bousculer une pensée. C'est tout un travail essentialiste réciproque, ce qui revient à transformer les fondements d'une logique de pouvoir, de contrôle sur les définitions et sur ce que devrait être d'une part le féminisme et d'autre part l'islam. Alors évidemment, c'est une tâche énorme. C'est une révolution culturelle au sens de nos histoires après 68 tard, révolution culturelle dans le sens profond, que de mettre de la plasticité. Alors ici, il faut que je dise à qui j'emprunte ce mot, de la plasticité, du mouvement, du dynamisme, et donc de l'interdépendance, de la relation dans la logique du rapport de force identitaire, et donc exclusive, et donc hiérarchique, et donc patriarcale. Alors si je dis plasticité, c'est pour faire référence à... Je vous ai apporté des références parce que je trouve que la circulation des idées, c'est très important. Et cette plasticité, je l'ai trouvée dans un livre qui vient de sortir aussi il n'y a pas longtemps, d'une philosophe qui est à Nanterre, ici à Paris, qui s'appelle Catherine Malabou, et qui vient de faire un livre, enfin elle en a fait d'autres après, mais le dernier, elle y avait eu son portrait dans Le Monde, et le dernier, un des derniers livres s'appelle « Changer de différence ». Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que elle pense à la fois la pensée essentialiste et aussi l'anti-essentialisme à tout prix, ce qui est nouveau, je trouve. Et elle emploie ce mot de plasticité de la différence. Et moi, ça correspond tout à fait à ce que je voudrais essayer de vous dire par rapport à ce livre. Alors, la place, bon, bien. Alors, évidemment, cette logique-là dont je viens de parler, d'identité exclusive, hiérarchique, patriarcale, répond, et celle qui répond non à la possibilité d'existence d'un féminisme musulman, c'est une question qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle fut posée exactement dans les mêmes termes par le féminisme juif dans les années 80, comme en parle Judith Plaskov dans son livre extraordinaire, là encore. Moi, j'ai des références extraordinaires à vous dire. Standing Again at Sinai, c'est pas traduit en français. Et elle explique très clairement son refus de rester enfermé dans ce « ou bien » qui laisse, dit-elle, à d'autres le pouvoir de définir, justement, le judaïsme et le féminisme, et qui provoque, dit, en soi-même, quand on porte ces deux choses en soi, ce qu'elle appelle cette scission, ce split de personnalité. Elle refuse donc d'être dans cette séparation, dans cet éclatement, d'un côté ou de l'autre, d'une barrière identitaire destructrice, génératrice de violence en soi et autour de soi. Alors oui, islam et féminisme, non seulement ça peut exister, mais ça existe. Et ça a même donné lieu à 3 rencontres internationales à Barcelone en 2005, 2006 et 2008, auxquelles j'ai assisté à ces 3 rencontres, et qui ont donné lieu à un ouvrage qui rend compte de certaines des interventions de la première, du premier congrès en 2005 et du deuxième en 2006, à la fin de 2006. Mais malheureusement, ce livre, c'est en espagnol. Et ça s'appelle, enfin je ne sais pas, vous voulez que je vous donne le titre en espagnol? Non, c'est Emergencia, oh là là mon Dieu, est-ce que je l'aurais marqué? Enfin, je vous le redirai à la fin si ça me revient. Bon, je ne l'ai pas écrit là parce que je me suis dit, les Français ne parlent que français. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas espagnol. Alors bon, je vais leur signaler. Bon, alors, enfin bref. Donc, il y a deux... ça a donné lieu... Enfin, que ça existe donc, et pour l'heure, ce n'est pas traduit en français. Et voilà. Bien. Donc, alors, côté féministe... cet islam et féminisme, je vais le dire en deux parties. Côté féminisme, dans quel type de féminisme ça s'inscrit? Et côté islam, dans quel type d'islam ça s'inscrit? Mais comme je ne peux pas les dire ensemble, je vais les dire séparément. Alors côté féministe, ces rencontres internationales sur féminisme islamique, elles s'inscrivent dans les mouvances d'un féminisme post-colonial, et qui a été théorisé par des auteurs, alors là pareil, qui viennent principalement d'Inde, des États-Unis et de Grande-Bretagne, telles qu'une qui est célèbre, qui s'appelle Chandra Talpad Mohanty, et dont le dernier ouvrage s'intitule « Décoloniser la théorie, pratiquer la solidarité ». Et qui présente la possibilité d'un féminisme, entre guillemets, sans frontières, qui permettent de comprendre les effets multiples de la mondialisation sur les femmes, dans les spécificités de leur contexte respectif et dans l'interconnexion de leurs situations multiples. Alors, vous trouverez en français, si cela vous intéresse, dans la revue Nouvelles Questions Féministes de 2006, un article intitulé comme ça, « Les apports théoriques du postcolonialisme anglophone aux études féministes ». Toutes les références de cet article sont en anglais. Sauf deux, et deux des références, et des femmes qui font l'article en français, bien sûr, dans la revue « Nouvelles questions féministes ». Et cet article s'intitule « Comment repenser les féminismes dans un monde transnational ». C'est un article, enfin là aussi, remarquable. De toute façon, je voulais vous parler de mes découvertes remarquables. Alors, donc, comment repenser les féminismes dans un monde transnational. Je tourne ma page. Alors, côté islam. Alors, ces rencontres barcelonaises, elles ont permis de faire entendre les voix de femmes musulmanes qui, alors ça c'est très important, hein, à partir de lieux aussi divers, géographiquement et politiquement, que l'Afrique du Sud, l'Iran, la Malaisie, l'Indonésie, les États-Unis, des pays arabes, des pays européens, je vais vite. Alors, elles ont permis de faire entendre les théoriciennes et praticiennes de ce mouvement qui luttent, alors je dis bien, pour l'inclusion de la perspective de l'égalité de genre, en même temps de la justice sociale, de la démocratie, du pluralisme et des droits humains, dans des réinterprétations du Coran, et en même temps dans l'appareil juridique traditionnel de l'islam, et ce, au profit d'une lecture dynamique et contextuelle de l'islam, qui remet en cause, bouscule là encore, les autorités masculines, et en même temps qu'il y avait les théoriciennes et les praticiennes, ce qui veut dire qu'au cours des trois congrès, il y a eu des exposés théoriques de pensée et il y a eu des expériences vivantes de lutte dans différents types de contextes de femmes musulmanes dans cette planète musulmane. Je précise que ce congrès, il était ouvert évidemment à toutes et à tous, et à hommes et femmes, et qu'il y a eu aussi, à un moment ou à l'autre, des intervenants hommes, enfin, ils étaient minoritaires par rapport aux intervenantes femmes de ces congrès. Alors, c'est ici le plus difficile que j'ai à résumer pour vous, les lignes de force de ces réinterprétations et mises en action, de dépatriarcalisation. C'est difficile, c'est complexe, mais en même temps, je vais essayer de vous résumer rapidement. Alors, sur les plans herméneutiques, de réinterprétation du Coran, le fait de dépatriarcaliser la parole coranique, c'est essayer de dépatriarcaliser une image de Dieu, en donnant un autre sens à la notion de tawhid, d'unité, pour celles et ceux musulmans et musulmanes ici à qui ça dit quelque chose, CF, parce que en général, quand on dit Dieu un, ça a été beaucoup analysé par les féministes juives et chrétiennes avant nous, c'est le Dieu un, c'est un mâle du monothéisme, un masculinothéisme, etc. Et vous avez beaucoup entendu tous les monothéismes oppriment les femmes, etc., au nom de ce Dieu, de cette idée d'un Dieu un mâle. Alors, il s'agit donc d'un travail de désoccupation d'un paradigme musulman interprété de façon patriarcale la plupart du temps, et aussi de désoccupation de la langue, et donc de mise en relation d'un processus de libération en même temps que de non-représentation de Dieu comme homme, comme père, etc. À propos de ce niveau tellement fort d'imprégnation d'une image masculine de Dieu, sur lequel je reviendrai, les féministes musulmanes d'aujourd'hui, elles ont amené un combat aussi, là encore, qui m'a fait penser à celui de féministes juives dans les années 75-80. Ces féministes juives qui ont eu à mener exactement le même style de combat face à des féministes chrétiennes, justement sur ce sujet, sur l'image, autour de l'image d'un dieu mâle masculin, d'un colloque qu'elles avaient choisi intitulé « Image au pluriel de Dieu ». Et c'est un combat dont je vais vous donner rapidement les termes dans la logique d'exclusion dont j'ai parlé plus haut, et qui est à l'œuvre aussi, bien sûr, chez les féministes comme d'autres. Alors, le débat était en ces termes. Le Dieu juif est un Dieu jaloux, un Dieu de la loi, juste et donc violent. C'est-à-dire un Dieu de la loi qui assimile l'idée de justice, puisqu'on parle de justice, on parle donc de violence. C'est un Dieu, un mâle de la toute-puissance qui a éliminé la déesse et qui est donc à l'origine, ce dieu juif mâle, est donc à l'origine du patriarcat monothéiste. Ça, c'était un côté de la chose, et par rapport évidemment, alors il y avait de l'autre côté le dieu chrétien, est un dieu d'amour, parce que sans loi, et donc, on ne peut pas parler trop de justice, et donc sans violence, incarné dans un homme qui s'appelle Jésus, et qui, ce Jésus, évidemment, était féministe. Voilà. Les deux aspects de ce type de pensée. Alors, je reviendrai à la fin là-dessus, sur cette expérience. Et alors, ça m'a fait penser ça, cette espèce de dichotomie, elle m'a fait penser aujourd'hui dans notre pays, et dans l'affrontement islam-féminisme-laïque, on pourrait presque faire le même parallèle. Je ne dis pas le même exactement, mais ça m'a fait penser. Alors, je vous le livre tel quel, on parlera peut-être tout à l'heure. Féminisme laïque, alors de la République, de la liberté, égalité, fraternité, et d'un côté, et féministe d'un autre côté, et musulmane d'un autre côté, soumise à un dieu, alors je n'ai pas besoin là de vous faire de dessin non plus, donc qui est essentialistiquement violent, misogyne, et dont la loi, la charia, est barbare. Alors c'est si vrai, ça m'a fait penser à cette chose-là de façon si forte. Et c'est si vrai que Elisabeth Badinter a pu dire que, franchement, je la cite, depuis longtemps, dans la société française de souche, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, je ne comprends pas pourquoi elle parle de catholicisme, parce qu'il y a aussi des protestantes, enfin, je cite ce qu'elle a dit, le judaïsme ou le catholicisme, on ne peut pas dire qu'il y ait une oppression des femmes. Vous trouverez la référence de ça dans le très bel article de Sylvie Tissot, dans les mots sont importants. Elle a appelé ça dans son article un féminisme d'État. Critique d'un féminisme d'État. Bon, alors ça, c'est pour la première chose par rapport à une hermétique sur l'image de Dieu-là dépatriarcalisé Dieu, ce qui n'est pas une mince affaire. La deuxième ligne herméneutique est celle du principe d'égalité homme-femme et de sa mise en pratique. En effet, tous les courants musulmans, même les plus conservateurs, reconnaissent l'égalité spirituelle des hommes et des femmes. Car la version coranique de la création ne fait pas du féminin un dérivatif postérieur au masculin, à travers la fameuse histoire d'Adam et Ève, etc., unique responsable d'une chute sur laquelle s'est construite toute la mythologie de la perversion dangereuse des femmes et la justification de les garder sous maîtrise. C'est donc une position égalitaire majeure à l'égard d'un problème fondateur, d'une matrice de pensée, on a presque envie de dire universelle, sur cette histoire de dérivatif du masculin, du féminin par rapport au masculin. Mais le problème, c'est que cette égalité de principe, spirituelle, reconnue par tous les musulmans, ne s'est pas répercutée dans les sociétés musulmanes, dans les sociétés, donc dans les pratiques, et ce, au nom d'une conception statique, je dis bien statique, d'une complémentarité, on emploie beaucoup ce mot complémentarité, qui fait, en réalité, par rapport au masculin et au féminin, de la différence, une hiérarchie. Donc, cet islam féministe remet en cause cette séparation spirituelle qui n'aurait aucun lien avec une égalité sociale pratique, cette interprétation dominante, cette complémentarité statique très dominante de la pensée religieuse classique, d'une métaphysique de la complémentarité statique, et qui en même temps se fonde sur des vouloir démontrer par des arguments psychologisants des droits et des devoirs, des rôles et des fonctions sociales de sexe, non pas égaux mais équivalents. Donc ça c'est une remise en cause dans ces mouvements féministes musulmans, et cette deuxième chose là. Alors je pourrais donner des exemples de cette remise en question dans la pratique, dans les pratiques sociales de lutte sociale, politique de lutte de ces femmes. Il y a eu des exemples à Barcelone. Par exemple, la lutte au sein des mosquées, sur le plan de la fonction de l'imamat. Alors vous avez tous entendu parler des scandales internationaux autour de la fonction d'imam, de la figure d'Amina Wadud, dont je parlerai plus tard si vous voulez. Mais de choses moins connues, qu'on connaît moins, de femmes imams chinoises aussi, parce que alors l'islam chinois, vu de France, est très loin. Et qui avait fait dire, je m'en souviens bien, à quel point les enjeux sont très importants, avait fait dire à l'époque, je m'en souviens, à propos de ces femmes imams chinoises, qui avait fait dire à l'époque au recteur M. Dalil Boubekeur de la mosquée de Paris, qui avait fait dire que prôner ça, c'était au même niveau de dangerosité que le terrorisme. Bien. Alors, lutte sur le plan de l'espace ségrégatif, qui passe parfois par une première étape aussi de mosquées autonomes de femmes. On a eu des exemples, donc il y a des exemples de tradition chinoise, ça c'est sûr. Et il y a aussi des exemples, par exemple, on a eu un bel exemple de femmes indiennes, musulmanes, qui se bagarrent pour avoir, dans un premier temps, un peu comme dans le mouvement féministe, entre autonomie et mixité, enfin toutes ces questions-là, entre bon, mixité, ségrégation, mixité, autonomie, enfin, voilà. Bon. Alors, mais pour que cette lutte pour l'égalité ne reste pas enfermée dans un égalitarisme quantitatif, parce que ça, c'est très important aussi, c'est un autre aspect de cette lutte pour l'égalité de genre à l'intérieur de l'islam, qui est une, oui, alors évidemment, le quantitatif est très important, bon alors, pas entrer dans le domaine, dans le débat sur parité, pas parité, etc., etc., mais, enfin, Judith Pascoe, pour toujours revenir à elle, elle pose en même temps la question qu'une égalité quantitative peut rester tout à fait bien à l'intérieur d'un schéma patriarcal classique, à savoir que, par exemple, quelle serait la différence entre une femme imam et un homme imam? Alors attention, hein, je ne fais pas d'essentialisme masculin et féminin là, hein, mais quelle serait la différence entre une femme imam et un homme imam, une femme imam qui, dans ses leçons, dans ses prêches, à la mosquée, prônerait que les hommes sont supérieurs essentialistiquement aux femmes, que les hommes peuvent battre les femmes, etc. Et qui verrait là une espèce de contradiction, dit-elle, entre ce que sa présence dit en tant que telle et ce qu'elle prône. Donc, la question de l'égalité, c'est très important sur les plans quantitatifs, mais aussi sur les plans qualitatifs, et que ça s'inscrit évidemment dans une autre conception du monde, et que veut cette autre conception du monde. Voilà, ça, bon. Alors, et la dernière ligne de force, et voilà, je vais aller vite, de cette herméneutique, c'est que toute connaissance religieuse est une, toute connaissance, je dis bien religieuse, est une construction sociale qui est inscrite dans le temps, c'est-à-dire dans les différents contextes politico-socio-historiques où elle s'exerce, et qu'elle pose la question de qui lit la parole de Dieu, enfin, quelle lecture au pluriel, et comment on lit. Et que contextualiser ne s'oppose pas à universaliser, j'en reviendrai sur universalisme après, mais au contraire, que l'universalisme du Coran réside dans l'habileté, au contraire, des nouvelles générations à exercer intelligence, connaissance, dans l'élaboration de nouvelles significations, c'est-à-dire pensée critique, ijtihad, et de nouvelles pratiques. Et donc à distinguer ce qui est de l'ordre du général, de l'universel et du spécifique. Alors, ce principe d'égalité appliqué à la situation spécifique des situations patriarcales de la famille, telles que divorce unilatéral des hommes, polygamie, héritage et tout ça, dont il a été question à Barcelone, d'une manière extraordinairement forte, difficile, mais très stimulante de par la qualité et l'ambiance dans laquelle les échanges ont eu lieu. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, si ça vous intéresse. Alors, tout ça là, ça implique... Elles interprètent ça comme étant des choses contextualisées historiquement, mais avec bon, certaines qui prônent, qui disent bon, tous ces versets-là, c'est obsolète, aujourd'hui on n'en parle plus, mais qu'il y a d'autres positions aussi qui disent non, c'est pas obsolète, mais comment on le comprend aujourd'hui? Ça implique une espèce de logique qui est extrêmement difficile, je trouve, à mettre en place, c'est celle de... Elles disent que ces versets-là, ça veut dire que on ne peut, ça implique de reconnaître une situation comme patriarcale et qu'on ne peut, on ne peut agir que sur quelque chose, on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et le reconnaître ne veut pas dire l'approuver. C'est en prendre conscience et agir pour le transformer. Autrement dit, l'égalité s'inscrit dans un processus long, difficile, et non dans une rhétorique abstraite qui serait de perfection, qui masque les inégalités réelles, c'est-à-dire au nom de... Voilà. Bon, ça c'est très important. Alors c'est pas une logique idéaliste. C'est pas une logique matérialiste non plus. Enfin, il y a peut-être des gens philosophes dans l'assistance, je sais pas. Enfin, c'est intéressant. Mais c'est
c'est dans une logique de quelque chose, d'un inachèvement. C'est une logique d'inachèvement permanent, de processus, et qui n'a rien de définitif. C'est une tension vers une éradication du patriarcat. Et c'est cette tension elle-même qui est intéressante. Alors, il y a des parallèles qui sont faits avec l'esclavage, etc. Bon, on pourra y revenir plus tard si vous voulez. Bien. C'est la même chose exactement que pour appliquer la pensée de la violence-non-violence. On n'est pas dans une logique coranique dans violence ou non-violence, la violence c'est mal et la non-violence c'est bien, mais c'est une pensée plus complexe de comment peut-on agir sur la violence si on ne la pense pas, si on ne la pense pas comme étant des êtres qui la portons aussi les uns et les autres. Enfin, je vais vite, hein, mais bon, voilà. Voilà. Alors, donc, pour terminer là-dessus, considérer que certains modèles de type de famille, par exemple, pour revenir à ces versets-là, n'ont plus lieu d'être, parce que régis par des lois patriarcales qui vont à l'encontre de l'esprit d'égalité et de justice, d'un principe fondateur, c'est au contraire de la pensée conservatrice traditionnaliste faire œuvre de respect par rapport à une certaine de logique quand on essaye de rentrer dans une certaine de logique du texte. Du respect du texte. Voilà, j'ai presque fini. C'est bientôt, oui, ça va, je ne suis pas trop longue. Pour terminer, je voudrais dire que pour avoir un aperçu à peu près complet de l'histoire de ce mouvement féministe islamique, je vous ai apporté la dernière revue de très, très sérieuse de critique internationale de Sciences Po, qui fait dans son numéro 46 de janvier-mars 2010 le féminisme islamique aujourd'hui. Alors il y a des exemples, mais il y a une introduction très intéressante de Stéphanie Lat Abdallah. Moi je ne la connais pas, mais enfin je trouve que je suis toujours très contente de faire partager mes découvertes, et bien ça circule, c'est bien. Et il y a Où en est le féminisme islamique aujourd'hui de Margot Badran, qui avait été invitée à Islam et laïcité, mais enfin, il est très bien sorti. Enfin, il est très bien, enfin, je trouve, parce qu'il fait une espèce de condensé, c'est pas facile, des différents moments, parce que c'est pas là non plus un moment fixe, des différents moments de ce islam et féminisme. Voilà. Voilà, donc, oui, et alors elle fait, oui c'est ça, bon, alors, et enfin, oui, ce que je voudrais revenir pour terminer sur, j'ai fait allusion aux images de Dieu, là, et de la lutte entre féministes, enfin de la lutte, oui, de ce qui a été très difficile entre féministes, juives et chrétiennes, j'ai pas dit comment elles avaient surmonté ensemble cette vision, et comment elles l'ont surmonté ensemble, eh bien, elles ont pratiqué, enfin, ce que moi j'ai pratiqué dans des tas de rencontres où je me suis trouvée de femmes très diverses aussi, c'est une espèce de critique solide, mais ça je m'excuse, j'ai l'impression que je fais que des références, mais j'ai failli vous la porter, enfin c'est ma dernière découverte aussi, j'ai failli vous la porter. Alors je vous dis d'abord la citation et ensuite je vous dirai ce qui est sorti. Alors, une critique qui a laissé ouverte la possibilité d'être soi-même transformé dans le processus de confrontation des différentes visions du monde, ici de Dieu, et qui a laissé ouverte la possibilité d'apprendre, la possibilité d'apprendre. Et cela suppose parfois de porter un regard critique sur nos propres partis pris, d'accepter la possibilité d'être transformé au cours de la rencontre avec l'autre. Et cette personne, dont je vais vous dire qui c'est, c'est une conception souple de la critique qui s'oppose à une conception normative, très répandue, très largement répandue, dit-elle, entre autres chez les progressistes et les féministes, qui consiste à démolir le point de vue adverse en dévoilant la vanité et l'incohérence des arguments sur lesquels ils se fondent. Et moi, je trouve que faire usage de cette souplesse critique, de cette plasticité dont j'ai parlé tout à l'heure dans la contradiction,
puisqu'au fond, c'est être capable de penser une logique de la contradiction, mais pas de la contradiction en opposition, le rapport de force qui s'exécute, voilà. C'est plus une contradiction de rapport de force, qui n'est pas dans la de rapport de force éradicateur, mais à mon avis, c'est la seule manière de faire, c'est la seule manière de penser, de faire, enfin, de combiner la pensée d'un universalisme et dans la diversité. En tout cas, c'est celle dans laquelle je me sens plus à l'aise pour vivre à la fois les convictions de mes engagements féministes des années 70, que vous avez dit tout à l'heure, qui s'enracinent à la fois dans les années 70 et dans, et c'est pas un jeu de mots, dans les incertitudes d'aujourd'hui, qui pratiquent à la fois les certitudes dans les incertitudes. Et pour ça, pourquoi je vous dis ça en dernier, c'est parce que je fais référence à ce que j'ai découvert aussi, dans les sciences contemporaines, il y a des grands scientifiques qui parlent d'un principe d'incertitude. Je trouve ça magnifique. Enfin, incertitude. Alors que je vous dise, d'où j'ai tiré cette citation de critique, c'est un livre. Alors pour les anthropologues, pour les philosophes et pour les sociologues qui seraient présents et présentes dans cette salle, si vous ne l'avez déjà fait, parce qu'il y a des gens qui savent tout ici depuis longtemps, c'est un livre qui vient d'être traduit en français, aux éditions de La Découverte, de Saba Mahmoud. Qui s'appelle La politique de la piété et au-dessous comme sous-titre le féminisme à l'épreuve des mouvements de la piété en Égypte. C'est un livre remarquable parce que elle raconte ce truc de critique là, donc c'est quelque chose qu'elle a vécu très fort, et entre autres où elle a commencé par s'interroger elle-même sur ses propres répugnances, comme elle l'appelle. Elle s'est interrogée sur cette répugnance à aller étudier des mouvements de femmes de la piété à l'intérieur, enfin c'est en Égypte, hein, donc moi je connais pas du tout la réalité égyptienne, mais enfin, c'est un livre difficile, hein. Il faut se mettre comme ça, hein, parce que ça fait beaucoup référence à des choses de philosophiques, non seulement d'Aristote, mais de Michel Butor. Non, pas Michel Butor, Michel. Michel Foucault. Vraiment, et les théories anthropologiques, vraiment, c'est un travail, je trouve, remarquable. Voilà.
Merci Marie-Laure.
Bien, merci Marie-Laure. Vous avez beaucoup découvert, vous avez souvent employé ce mot, nous avons découvert avec vous, nous vous en remercions. Vous avez employé une expression forte, prendre conscience pour transformer. Je crois que vous nous avez aidé à prendre conscience. Il va y avoir un débat certainement sur les avenues nouvelles dans la lumière du féminisme, de la réinterprétation, de la contextualisation et des images du divin dans toute leur diversité. Maintenant, la parole est à Marie-Laure Bousquet.
Mais non, c'est fini, moi.
On est fini. La parole est à Monique Trinon.
Est-ce qu'avant qu'on commence ce sujet, est-ce que juste une minute, simplement pour reprendre une... c'est en termes de méthode. Elle a dit qu'il ne faut pas faire l'essentialisme. Je suis d'accord avec ça. Absolument d'accord. Mais je crois que ça vaut aussi pour le féminisme laïque, comme on a
dit. Vous abordez là un point qui, justement, est le cœur du débat.
Voilà. Soyons clairs, Madame Badinter, c'est un courant Oui, d'un accès privilégié au milieu.
S'il vous plaît, un point de fonctionnement, s'il vous plaît.
Nous n'en doutons pas, mais
un point de fonctionnement, vous aurez tout. Voilà.
Que nous fassions, comme nous l'avions dit,
vous aurez
que
tout,
nous
voilà, tout à fait.
D'abord,
voilà.
L'exposé de Monique Crinon, et vous aurez ensuite immédiatement la parole pour exposer votre point de vue.
Bon, moi, on m'a demandé d'intervenir sur la question du féminisme et de la laïcité. Et en fait, je me suis interrogée à l'articulation, enfin en tout cas, au fait que au cours de ces dernières années, la question du féminisme a été fortement reliée à celle de la laïcité. Et alors, c'est étrange parce que autant pour moi, le féminisme est un combat, une lutte, et c'est vrai que la laïcité, c'est une évidence. Je suis née dans une société, j'ai vécu dans une société dans laquelle la question de la laïcité ne m'a jamais posé de problème douloureux, grave, compliqué. Voilà. Donc, d'un côté, les questions relatives au féminisme qui se sont toujours présentées comme étant effectivement sous la forme d'un engagement, d'une réflexion, d'une lutte, d'une conquête, etc. Alors que la laïcité, pour moi, était avant tout de l'ordre de quelque chose que je présente comme une évidence ou un acquis. Ce qui ne veut pas dire que... Mais, enfin, ça veut dire, entre autres, et je le dis devant des gens ici qui ont beaucoup travaillé sur la question de la laïcité, que je me suis réinterrogée sur la question de la laïcité parce que cette articulation, au fond, qui nous était présentée, c'était au fond de dire que le féminisme, après je reviendrai sur le terme justement, était conditionné par l'existence de la laïcité. Qu'il était non seulement conditionné par l'existence de la laïcité, mais qu'il en était en quelque sorte une résultante. Et que finalement, en tout cas dans ce qui nous était dit, si les féministes et si les femmes avaient quelques droits, certes encore insuffisants et surtout pas complètement respectés, nous le devions au combat laïque. C'est en tout cas comme ça que les choses se sont présentées au moment du débat et du vote de la loi sur l'interdiction des jeunes filles musulmanes portant le foulard à l'école, loi à laquelle je me suis opposée. Mais en tout cas, et alors évidemment, ça m'a troublée quand même, ça m'a quand même posé des questions. Parce que ce que ça disait en creux, c'est qu'en somme, parce que la laïcité telle qu'elle était présentée dans cette espèce de binôme fortement relié historiquement et je dirais quasi consubstantiel, ça voulait dire qu'il y avait un antagonisme entre le fait d'être féminisme et d'avoir un attachement religieux, puisque la conception de la laïcité qui était la mise en avant était une conception complètement opposée, ou en tout cas qui présentait la religion comme étant un élément d'aliénation, d'obscurantisme, et en tout cas contradictoire avec un mouvement d'émancipation. Donc c'est vrai que pour... moi je me souviens à l'époque, et je crois que tu parles d'incertitude et complexité, je me suis opposée à cette loi. J'ai effectivement eu quelques raisons de le faire et je n'ai pas changé sur ces raisons-là. Et dans la foulée, j'ai rencontré des femmes, dont Ismaham et d'autres musulmanes, avec lesquelles nous avons engagé un chemin d'engagement commun sur les formes que le patriarcat adoptait et sur, au fond, la question que nous posions, est-ce que nous avons un référentiel commun ? Et donc derrière ça, la question que je me posais moi, c'était, est-ce que pour être féministe, il faut véritablement rompre définitivement avec certains attachements ? La religion pour moi étant un attachement et un élément constitutif de l'identité, mais ça peut vouloir dire, est-ce que pour être féministe, il ne faut plus que je participe à aucune réunion dans ma région d'origine, où les hommes sont d'un côté en train de chanter et les femmes ailleurs, peut-être que je ne dois plus y mettre les pieds, parce que c'est contradictoire, parce que ma culture d'origine et les cultures régionales sont des cultures dans lesquelles effectivement le marquage des places et des rôles est un marquage fortement sexué. Autrement dit, la question derrière ça, c'est est-ce que le féminisme et le statut de féministe et la reconnaissance de féministe passent par des ruptures d'attachement fortes et notamment des ruptures avec les attachements de type religieux. Ou est-ce qu'il est possible, au contraire, de réinvestir et de considérer que de l'intérieur de ces attachements qui sont constitutifs de mon identité et de nos identités, parce que nos identités procèdent effectivement pour une part, pour certains d'entre nous, d'attachements religieux, mais il y a beaucoup d'autres formes d'attachements culturels, divers et variés, dans lesquels, effectivement, les assignations sont des assignations sexuées dans les rôles, les places et des uns et des autres. Donc c'est à partir de là que je me suis un peu interrogée sur la question de la laïcité. Je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que véritablement le féministe et les féministes, nous devrions avoir un autel qui représenterait la laïcité ou une statue et nous devrions lui dire merci le 8 mars? Ce que font d'ailleurs certaines femmes dans les cortèges. Je ne dis pas qu'il y a une statue, mais enfin c'est quasiment de cet ordre-là. Donc ça m'a amené à me retourner, à me dire, au fond, prenons ces deux termes, laïcité et féminisme, et on voit bien, en tout cas, que les objets, que ce sont deux processus historiques émancipateurs, indéniablement, mais que dans un cas, effectivement, la laïcité a un objet, et que le féminisme en a un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas parfois liés historiquement, mais il y a un objet. Donc, la laïcité, elle a eu pour cible le rôle et la place des religions dans la société, et notamment, son objectif premier fut et demeure la volonté de leur dénier toute prétention et tout droit à être l'axe structurant de la vie sociale et des rapports sociaux. Mais lorsqu'on regarde un peu comment ça s'est passé, je crois que là aussi, on nous présente la laïcité. En réalité, effectivement, il y a la loi 1905, mais il y a surtout autour de la laïcité, des courants de pensée s'affrontent, et que la laïcité, comme toute forme et tout processus historique, est un champ de bataille dans lequel, évidemment, les points de vue ne sont pas divergent sur un certain nombre de choses. Et ce qui s'est passé dans les années 2000-2005, ça a été la réactivation des débats internes à la laïcité, si je puis dire, via effectivement quoi ? Le fait que la religion musulmane, qui est depuis un bon moment présente dans la République française sous des formes diverses, soit dans les colonies, soit via l'immigration qui n'est pas quand même arrivée en l'an 2000, etc. Donc en tout cas, le fait qu'autour du débat sur le foulard, la question de la religion musulmane soit réapparue comme un élément du débat public a réactivé, je dirais, ces deux grandes conceptions de la laïcité. L'une qui effectivement, je vais aller très vite parce que vous le savez, considère que la religion et la raison sont totalement contradictoires, c'est-à-dire qu'en somme la religion est l'ennemi absolu de l'exercice de la religion, et que donc un des objectifs du combat laïque c'est l'éradication des religions, et une autre conception, je vais vite, qu'on a qualifié de conception ouverte, ce qui est une absurdité, c'est une autre conception, c'est tout, qui estime, et c'est mon cas, que la raison travaille les religions, parce que les religions sont en effet, non pas, et la religion n'est pas un phénomène intérieur camouflé dans la vie privée qu'on ne saurait voir dans l'espace public, c'est effectivement un attachement et une pratique collective et un fait social qui participe de la vie sociale et qui est travaillé par la raison. Autrement dit, cette idée qu'il y a opposition entre raison et religion est une idée que je ne partage pas. Parce que dès lors qu'on pense ça, effectivement, la religion est reléguée dans le camp, si je pourrais dire, de l'obscurantisme, de la non-raison, de la déraison de quelque chose qui y renvoie à un espace dans lequel ceux qui s'y reconnaissent sont définitivement en situation de non-pensée. Parce que c'est ça que ça veut dire. De non-pensée. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus, ils deviennent assujettis. Bon, alors, je trouve que d'ailleurs, c'est toujours un peu scabreux de considérer, de faire de la religion l'élément majeur et unique d'assujettissement et de desservelage des humains, parce qu'il y a quand même d'autres formes parfaitement athées qui ont montré qu'il était possible qu'un phénomène collectif ou qu'une idéologie puisse produire le même type de le même résultat, même type de processus. Donc, effectivement, moi, ce que je crois, c'est que dans les années 2000, autour de ce débat sur le port du foulard à l'école, eh bien, le débat autour de la laïcité a été réactivé, mais de façon, je dirais, non explicite. Pour des raisons qu'il faudrait analyser, qui sont des raisons liées au contexte politique, liées à la crise sociale dans laquelle on était, liées à un gouvernement de droite qui avait tout intérêt à ça, etc., etc., je considère que un camp laïque, celui qui présente l'option la plus rigide, en tout cas de la laïcité telle que je l'ai précédée, a joué un sale jeu et s'est présenté et finalement comme étant le porte-parole de ce qu'est la laïcité. Et on a évacué d'une certaine façon le débat sur la laïcité en rameutant alors un autre élément qui est la question du féminisme. Donc, vous voyez, effectivement, donc deux courants. Voilà l'objet de la... L'autre objet qui est celui du féminisme, eh ben, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'effectivement, le féminisme, c'est quoi ? C'est simplement un mouvement collectif dans lequel des femmes identifient un système d'oppression, ce qui veut dire qu'en effet, il y a une prise de conscience qu'il y a un système d'oppression, qu'elles qualifient et qu'elles caractérisent de patriarcat, et qu'elles souhaitent s'en libérer de façon, je dirais, visible, collective et forte dans toutes les dimensions de leur vie. Une fois qu'on a dit ça, on est obligé de dire, évidemment, comme vous l'avez dit, madame, qu'il n'y a jamais eu un seul féminisme. De la même manière que autour des questions de la laïcité, les débats ont toujours été vifs et parfois durs, eh bien, puisque j'ai été présentée comme historique et militante du féminisme, et que de fait, j'ai beaucoup milité, j'ai notamment été pendant 20 ans à Dialogue de Femmes, qui se réunissait, on se réunissait tous les dimanches, une fois par mois, un dimanche complet pour écouter et travailler les écrits et les productions des femmes, et ça a fait c'est un travail qui était formidable, on peut dire que nous n'avons pas cessé de nous engueuler. De nous engueuler, parce que ce n'est pas vrai que nous n'étions pas d'accord et nous ne sommes toujours pas d'accord sur la nature de cette oppression, sur est-ce que ces deux identités socialement construites sont des identités irréductibles à la culture, c'est-à-dire qu'elles sont des identités de toute éternité et donc ce qu'on a appelé le versant essentialiste des féministes, il y a des hommes et des femmes. Et il y aura toujours des hommes et des femmes, alors qu'à l'opposé, il y avait un autre courant, il y a toujours un autre courant qui dit que ce sont l'organisation sociale qui a construit le genre et la répartition sexuelle des rôles et des places. Bon, on peut dire, ne serait-ce que sur ces deux questions, que nous n'avons jamais été d'accord. De la même manière que pour certaines féministes, il a toujours été question de considérer que la religion, et notamment les monothéismes, sont effectivement des systèmes d'oppression virulents et incompatibles avec tout espace de liberté et d'émancipation des femmes, alors que pour d'autres, ça n'a jamais été contradictoire. Et il n'a pas fallu attendre l'arrivée de l'islam pour que ce type de débat ait lieu. Je vous rappelle tout le travail qui a été fait par les Québécoises catholiques sur la question de la libération des femmes, qui étaient des femmes qui ont fait tout un travail en revisitant et en relisant les textes sacrés chrétiens.
L'autre parole, ça fait.
Oui, puis il y en a eu pas mal. Donc, je veux dire par là que le débat au sein du féminisme a toujours existé, qu'il y a toujours eu des tensions et une vigueur forte dans nos débats, que d'ailleurs, moi, je considère que c'est simplement la preuve que nous sommes humaines, que nous sommes pensantes, et que ce faisant, eh ben, nous nous approprions la réflexion qui nous concerne, que nous l'inscrivons dans le débat politique, de la même manière que pour certaines féministes, eh bien, l'oppression des femmes était la résultante du capitalisme, et qu'une fois que le capitalisme aurait été détruit, eh bien, naturellement, les femmes seraient libérées et que cette forme d'oppression disparaîtrait en même temps que toutes les autres formes d'oppression. Ceci pour dire que, très clairement, de la même manière qu'il n'y a pas une conception de la laïcité, il n'y a pas une conception du féminisme. Et que lorsqu'on va un petit peu plus loin, je me suis dit, mais au fond, est-ce que les laïcs au sens athée, les hommes qui étaient pour le combat laïque, républicain, est-ce qu'ils ont beaucoup aidé les femmes dans leur combat? Et alors la patatras, quand je suis allée voir là, je suis tombée de haut. Non, mais je suis tombée de haut, c'est que la République laïque s'est accommodée non seulement de l'histoire coloniale, non seulement d'un certain nombre d'oppressions, mais que jamais, dans les textes sur la laïcité, je parle sous votre contrôle, monsieur, je n'ai vu aucun élément de revendication pour l'émancipation des femmes, pour ceci, pour cela. Pardon ?
Au contraire.
Oui, non, mais justement, je me disais, parce que peut-être quelque chose m'a échappé, c'est pas ma spécialité, mais je n'ai rien trouvé de tel, et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressée, et ça, c'est là où je fais vraiment le parallèle entre la nature des débats au moment du droit de vote des femmes et la nature des débats au moment de la question sur le voile, c'est que les opposants les plus farouches à notre droit de vote étaient effectivement les hommes de gauche, républicains, laïcs. Pourquoi ?
C'est pas par eux qui étaient donnés le mandat.
Comment ?
Ben,
parce que tout simplement, les femmes étaient le cheval de Troie, enfin étaient les porte-paroles des curés. Les porte-paroles de l'aliénation religieuse. Comment ? Non mais bien sûr, je dis pour les hommes. Attendez, pour les hommes qui s'opposaient à ça, les femmes étaient les porte-paroles des curés. Ben oui, mais c'est un argument qui a marché. Alors, dans le genre argument patriarcal, les suppôts de l'Église, ou les suppôts des curés, ou les suppôts
sur les genoux de l'Église.
Oui, bon voilà. Mais dans le genre argument patriarcal le plus éculé, on ne trouve pas mieux. C'est-à-dire que c'est véritablement considéré, c'est poser les femmes comme étant effectivement simplement la caisse de résonance, un outil manipulé et manipulable pour faire entendre un point de vue et surtout un objet qui sert dans un rapport de force et qui est un enjeu qui n'a pas de reconnaissance en tant que tel. Or, si je fais le parallèle avec ce qui s'est dit au moment de la loi sur le voile, ce qui me frappe, c'est la similarité des situations et des arguments. C'est-à-dire que ce qui était et ce qui est toujours reproché aux musulmanes qui portent le foulard, c'est en somme d'être là pour faire de l'entrisme dans une société libérée et émancipée au nom des ayatollahs, au nom des imams, au nom de tout ce que l'islam produit de plus régressif. Donc, on s'est retrouvé, et c'est ça qui moi m'a paru intéressant, dans une répétition d'histoire dans laquelle effectivement des femmes sont dépossédées de la reconnaissance de leur autonomie et je dirais de leur qualité d'être pensant, étant en capacité de penser par elles-mêmes. Le plus grave, c'est que ça s'est passé en l'an 2000 et pas au début du 20e siècle, au début de, et ça a été porté par des féministes. C'est ça la grande différence avec ce qui s'est passé dans le débat précédent. C'est que le débat précédent sur le droit de vote des femmes, eh bien, ce courant de pensée était porté par des hommes qui déniaient aux femmes le droit de voter parce qu'elles étaient, effectivement, je l'ai déjà dit, des instruments, elles étaient instrumentalisées. On s'est retrouvé un siècle plus tard, ou un peu moins d'un siècle, parce que malheureusement, le droit de vote, ça ne fait pas un siècle. Eh bien, on s'est retrouvé quelques décennies plus tard avec une répétition de ce débat, mais cette fois porté non seulement par une partie de la gauche, une grande partie de la gauche, mais aussi par une partie des féministes, pas toutes, mais par une partie des féministes qui ont considéré qu'elles voyaient chez ces femmes-là non pas des femmes qui tentaient d'avancer et de construire leur émancipation sans nier une partie de leurs attachements. Je dis, moi, j'utilise le mot attachement, au sens fort du terme, mais que ce soit sans nier une partie de leur attachement, et en essayant de tenir les deux bouts, il y a eu ce refus de reconnaître ces femmes-là comme étant des sœurs de combat, au sens strict, au nom de la laïcité, et la laïcité a refusé de les reconnaître dans leur combat, au nom du féminisme. Et c'est cette espèce de jeu qui s'est établi entre une conception du féminisme et une conception de la laïcité qui peu à peu a réécrit l'histoire et a donné à penser en somme que l'un était totalement conditionné par l'autre, qui a peu à peu non seulement occupé le panorama de la réflexion sur le féminisme et sur la laïcité, mais qui a aussi finalement bloqué le débat, a gelé le débat. On l'a vu dans les commissions sur la burqa, on l'a vu dans les commissions sur le voile, on l'a vu. Il y a une espèce de gel du débat qui s'est fait autour de ces questions-là. Parce que si on regarde l'histoire du féminisme, non seulement ce n'est pas les tenants de la laïcité qui ont soutenu l'émergence du mouvement féministe, mais c'est, et c'est ça je crois le plus important à entendre de ce que sont les féminismes, c'est que les mouvements des femmes sont des mouvements qui ont toujours émergé dans une démarche d'autonomisation et d'indépendance par rapport aux appareils. Et je peux dire de mes camarades musulmanes que je côtoie, et je fais plus que les côtoyer au collectif des féministes, ça fait 5 ans maintenant qu'on avance ensemble, 6 ans, bon, 6 ans, qu'effectivement, prendre ce chemin-là, qu'elles ont choisi et que nous avons choisi de mener ensemble, sans rompre les attachements qu'elles ont par ailleurs, c'est emprunter un chemin qui est un chemin de dissidence interne à la plupart des groupes musulmans auxquels elles participent. C'est emprunter un chemin qui est un chemin de mise en tension. Et au fond, ne pas leur reconnaître cette qualité de féministe, non pas comme un label, mais cette qualité émancipatrice de leur démarche, c'est au fond les assigner à une place et les assigner à une rupture nécessaire. Et vous savez, moi j'ai une image qui m'avait bien fait comprendre ça, que vous allez peut-être trouver un peu dur, mais quelle image ? Mon compagnon est béninois, donc je vais parfois en Afrique, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à la porte par laquelle les esclaves quittaient le continent africain, avant qu'ils quittent le continent africain, on leur demandait de faire plusieurs tours pour qu'ils oublient, au fond, leurs attachements. Et j'ai parfois eu le sentiment, lorsque nous parlions des féministes musulmanes, des musulmanes féministes, que nous attendions d'elles qu'elles fassent cette espèce de tour et pour oublier leurs attachements et d'une certaine façon pouvoir accéder à quelque chose que nous décidons comme étant au fond la liberté, l'émancipation, etc. Et c'est, je crois, c'est vraiment, 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 avoir cette exigence-là. Non seulement il y a là-dedans une posture de domination, une posture qui a des reliquats coloniaux, une connotation coloniale forte, mais c'est surtout, je crois, méconnaître ce qu'est un mouvement d'émancipation, ce qu'est un mouvement de libération. Je veux dire qu'on avance et on se libère de ce qui nous oppresse à partir de l'endroit où on est, à partir de l'endroit où cette oppression nous touche. Et en essayant, dans cet endroit-là, et à partir de cet endroit-là, avec d'autres, de composer entre ce qui est constitutif en profondeur de notre identité et ce qui doit être combattu comme étant un élément d'oppression. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois le féministe. C'est non seulement comme ça que je le conçois, mais c'est comme ça qu'il s'est construit. Pour avoir un peu travaillé, je me suis... Quelles ont été les figures des femmes qui sont celles qui nous ont précédées? C'était les grandes moniales, Hildegarde de Bingen, totalement camouflées par l'Église, refusées, il faut que maintenant ces écrits sortent, mais il a fallu quelques siècles. Ce sont donc des femmes qui, au cœur des monastères, ont affirmé quelque chose qui était une capacité à penser, à produire de l'art, de la pensée, de la culture. Ce n'est pas en dehors de ces structures-là qu'elles se sont. Tout simplement parce que pour s'émanciper et avoir la conscience de cette oppression qu'on subit pour s'en libérer, il faut avoir un lieu de référence qui est un lieu de référence producteur de savoir et de connaissance. Et la religion ou les religions sont parmi ces lieux producteurs de savoir et de connaissance, producteurs d'une histoire et donc d'ancrage dans une histoire. Et je crois vraiment que c'est à partir de ça, à partir des ancrages dans nos histoires différentes, que nous pouvons avancer. Et la seule condition que nous pouvons mettre en tant que féministes, qui serait une condition, je dirais, vraiment absolue pour avancer ensemble, musulmanes et non-musulmanes, c'est la reconnaissance qu'il y a un système patriarcal. Et que ce système patriarcal joue dans l'islam, joue dans le judaïsme, joue dans le catholicisme, mais joue aussi dans d'autres formes d'appartenance collective, joue dans la société. Et c'est, je crois, le premier point, et c'est sur quoi, en tout cas moi, qui me définis un peu comme féministe, en tout cas depuis un moment, je peux depuis un certain nombre d'années non seulement militer, faire des choses avec mes amis musulmanes, mais pouvoir travailler ensemble, réfléchir ensemble, au fond, à notre place dans la société, à nos corps de femmes, à ce que nous en montrons et ce que nous n'en montrons pas, eh bien, de pouvoir discuter de ça entre femmes dans une démarche émancipatrice, ça veut dire que nous n'avons pas le même point de départ, évidemment, que nous n'avons pas le même ancrage, mais que nous avons un élément qui est un élément commun. Oui, le système patriarcal existe. Oui, il est malheureusement un des rares. C'est un système universel pour l'instant, qu'on retrouve présent à peu près dans toutes les sociétés, dans toutes les formes d'organisation collective. Nous l'identifions ensemble et nous avançons pour nous construire dans notre indépendance et notre autonomie, je dirais, avec les formes d'attachement qui sont les attachements constitutifs de notre identité individuelle, de notre identité sociale, de notre identité économique, etc. Donc, pour moi, si je devais conclure, je dirais que cette articulation, cette collusion entre laïcité et féminisme a été une espèce de faunée qu'on nous a vendue, qu'on a mis en scène pour, sans aucun doute, régler son compte à l'islam, sans aucun doute, pour certains, régler leur compte à une religion, à une menace pour la laïcité, sans aucun doute. Mais en tout cas, le résultat, ça a été que finalement, par cette histoire-là, on a assigné un certain nombre de femmes françaises à une place de dominée éternelle, parce que musulmane, et d'autres femmes à une place de libérée par l'évidence qu'elles ne sont pas musulmanes. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que pour avoir depuis longtemps travaillé dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, je continue à faire l'évaluation des politiques publiques, j'ai vu les dégâts de cette histoire-là. J'ai vu des réunions de mamans dans des centres sociaux basculer sur ces questions-là. Parce qu'à un moment, alors qu'elles étaient confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes tensions, certaines se rétablissaient dans une forme de position de libération par rapport aux autres du seul fait qu'elles ne portaient pas le foulard. Et les autres étaient renvoyées à une position, je dirais, d'éternelle, un peu dominée en incapacité d'avancer du fait qu'elles portaient le foulard. Et que ce débat tronqué ait pu produire ce type de méfait, c'est-à-dire ait pu produire quelque chose qui est l'arrêt dans la construction d'une démarche collective de femmes qui ont comme seul élément commun de vivre dans un même endroit, de vivre les mêmes systèmes de domination et d'avancer ensemble, et que ceci ait pu être brisé par la mise en scène et d'un féminisme et d'une laïcité telle que je l'ai décrite, je trouve ça infiniment grave. C'est-à-dire que c'est plus qu'un débat intellectuel, c'est plus qu'une mauvaise mise en scène, c'est véritablement, selon moi, un facteur de fragilisation du travail d'émancipation des femmes, très particulièrement sur les territoires où elles sont tellement diverses, pour employer le concept de diversité. Voilà, merci.
Eh bien, merci, Monique. De nous avoir dit à quel point répondre à l'exigence émancipatrice se fait sortir de l'endroit où nous sommes et pas d'un endroit abstraitement défini. Merci de nous avoir dit à quel point l'autonomisation par rapport aux appareils idéologiques dans toute leur diversité est indispensable et de nous avoir dit à quel point il y a ou il peut y avoir dans le féminisme de la laïcité de tels appareils idéologiques. Je crois que cette question que vous avez posée est d'autant plus importante que les événements récents, les débats politiques, les débats idéologiques, les débats électoraux récents soulignent à quel point vous avez raison de dire que la mise en scène d'une certaine laïcité peut avoir des effets dévastateurs sur l'exigence de rassemblement autour des logiques émancipatrices. Mais je crois que maintenant, c'est à la salle à poser ces questions. Je vous propose qu'on procède de la façon suivante, que chacun et chacune d'entre vous qui souhaite poser des questions le fasse, en demandant à chacun et chacune d'indiquer son nom, de préciser si possible, mais ce n'est pas obligatoire cette seconde chose, de préciser si possible si la question s'adresse plutôt à Marie-Laure Bousquet ou à Monique Crinon, mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, ce sont des questions qui peuvent s'adresser aux deux, et également de limiter leurs questions à quelque chose comme un maximum de 3 minutes, car ce ne sont pas de professions de foi ou de non-foi que nous voulons ici, mais ce sont avant tout des questions qui permettent de faire avancer le débat. Voilà. La parole donc est à la salle et je vais... je crois déjà, madame avait souhaité intervenir tout à l'heure, Monique et Stéphane, et pour un premier tour, je propose qu'on le fasse par tour de 3.
Voilà, tout à fait.
Et ensuite, je prendrai d'autres interrogations. Donc, vous partagez. Alors, d'accord. Madame. Non, d'accord. Alors, Monique. Martine, Stéphane. Et
Jean, il y avait Jean.
Oui, et Jean. Alors.
Bon, c'est à chaud aussi. Ma réflexion, c'est plutôt pour la mission.
Martine Cohen.
Comment dire, je me dis.
Ton nom pour que tout le monde.
Martine Cohen.
Non, ouais.
Pourquoi on se donne les ennemis qu'on veut pour discuter contre là-bas? Alors. Je sais qu'il y a eu des gens dans les débats récents de ces 15 dernières années pour dire la laïcité, ça a toujours été le camp d'émancipation y compris les femmes, etc. Mais la laïcité, c'est aussi ce qui nous permet de rester, de parler en ici aussi. Ce qui vous permet, à vous et à d'autres, d'être ici. Donc c'est un contexte plus général, je veux dire. Et pourquoi dans votre combat féministe, on va dire ça comme ça, pourquoi concentrer votre combat contre ces vilains metteurs en scène de la laïcité
D'une laïcité,
oui, c'est bien, d'une laïcité anti-religieuse. Bon. Pourquoi, enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ennemis, d'autres combats plus forts à mener, premièrement? Et deuxième remarque, à propos des significations du voile. Je ne sais pas si ça a déjà été dit par d'autres précédemment avant moi, enfin, les significations du voile en France et dans les pays européens ou en général, elles ont changé. Elles ont changé du fait de quoi? Du fait des débats, des interpellations, de mauvaise ou de bonne foi, mais des interpellations. C'est quoi cette soumission? Et alors, il y en a qui ont inventé d'autres significations, tant mieux d'ailleurs, on réinterprète. Non, mais c'est aussi l'égalité, le voile. Pour moi, c'est l'invention. C'est la bonne invention, pour la bonne cause, je veux dire. Mais c'est l'invention. Et cette histoire-là, des débats qui ont obligé à inventer des nouvelles significations du voile dans l'égalité, c'est important ça aussi de le dire, dans la liberté et l'égalité des femmes. Ça ne vaut pas pour tous les pays, ça ne vaut pas pour tous les contextes. Ça ne vaut pas pour tous les pays, ça ne vaut pas pour tous les contextes. Donc c'est important. Et la réflexivité des acteurs et des actrices sur la réinvention des significations du voile, ça fait partie de l'histoire. Non pas du voile, ce n'est pas l'éternel soumission des jeunes, ça fait partie de l'invention d'un féminisme musulman peut-être. En tout cas, la question n'est pas, pour moi personnellement, engagée sur des questions d'émancipation en général, de l'invention d'un féminisme musulman, c'est l'invention de l'émancipation pour tout le monde, y compris la liberté pour certaines femmes de ne pas porter le voile. Ou d'autres, pas porter la perruque, ou d'autres choses. Voilà. La liberté de porter ou de ne pas porter.
Merci, merci. Stéphane
Non, j'ai un peu peur d'être hors sujet, mais...
Non.
Stéphane Suffer, je suis avocat.
Pour te dire.
non, mais j'ai un peu peur d'être hors sujet, mais je rejoins un peu ce qui vient d'être dit, en me disant que tant la laïcité comme le féminisme ne sont pas les seuls sujets sur le place public à un moment donné dans une société donnée. Et que, non, mais je dis, en conséquence, ce que je vois, moi, actuellement, c'est l'emploi qui est fait par le féminisme, en utilisant le féminisme de laïcité pour arriver à certains buts, qui ne sont pas nécessairement en rapport véritablement avec la laïcité ou le féminisme. Bon, quelques-uns qui me connaissent, je suis avocat, j'étais avocat pendant longtemps en droit des étrangers. Et les gens me posent la question, qu'est-ce que vous pensez de la politique d'immigration de la France? Et je répondais, il n'y a pas de politique d'immigration en France. Personne rationnel pourrait formuler comme politique d'immigration la politique qui est appliquée actuellement en France. Ce qu'on appelle une politique d'immigration est une politique politicienne pour recueillir des voix d'une certaine côté, en jouant sur certaines peurs, etc. Mais ce n'est pas véritablement une politique pensée en termes de ce qui sont les besoins d'immigration de la France. Oui. Et je me demande si en grande partie la même chose ne pourrait pas être dit par ce qui est sur place publique actuellement par rapport au féminisme et par rapport à la laïcité. On est dans un phénomène ici, par exemple, où il y a énormément, quand on dit anti-féministe, maintenant on pense sur le place public français immédiatement aux musulmans, quand on dit anti-laïque, on pense immédiatement aux musulmans. Mais vous m'excusez, ici on est à peu près tous d'accord qu'il y a une anti-laïcité. Juifs, catholiques, bouddhiques, etc. Il y a un antiféminisme très fort. Moi, pour des raisons personnelles, depuis quelques mois, j'ai lu beaucoup de Isaac Scheveszinger sur la situation des juifs en Europe, en Pologne, en des deux guerres. Mais les rabbins qui, pas seulement ne serraient pas de main des femmes, mais ne les regardaient pas. C'était interdit de regarder une femme qui n'était pas sa femme. Que ce genre d'antiféminisme est très présent dans beaucoup d'autres religions, mais on ne parle que de l'antiféminisme actuellement. Hein. C'est pas le cas peut-être longtemps. Et pour la même chose pour la laïcité, on parle de l'anti-laïcité de certains aspects ou de certaines interprétations de l'islam, mais jamais de l'anti-laïcité des juifs ou des... Non. Donc, et la dernière chose que je dis, peut-être un meilleur exemple, c'est peut-être cette question du vote des femmes et de peur des curés. J'ai vécu des années au Chili, où effectivement les femmes et les hommes votent séparément. Il y a des tables différentes, et donc on peut comptabiliser les votes. Okay. Et c'est un pays où l'Église catholique reste très forte, où il n'y a pas de divorce, par exemple, ils n'ont pas encore voté une loi de divorce, ou juste récemment, et que quand on a regardé les votes, par exemple, pendant la période d'AIND et la gauche, les femmes votaient majoritairement pour la droite, okay, et les hommes votaient très majoritairement à gauche, mais il y avait une division entre les deux sexes qui était réelle. Donc, il est vrai que c'est clairement pas une question essentialiste, mais il est vrai, dans une société donnée, à un moment donné, ça pourrait exister confondamment. Excusez-moi d'être en ce moment.
Jean Bobéro, va te prendre comme point de départ ce qui vient d'être dit. Parce que, justement, si on voit, par exemple, au 19e siècle, pourquoi les femmes étaient religieuses, entre guillemets, et les hommes non religieux. Alors, il y a deux explications. Soit on dit il y a une essence féminine religieuse et une essence masculine et religieuse. Il y a une autre explication qui est de dire, d'une part, le code napoléonien mettait la femme en position d'infériorité et une femme qui voulait exercer des responsabilités dans la société, eh bien le meilleur moyen d'exercer des responsabilités, c'était de devenir bonne sœur, ça lui permettait d'être enseignante, d'être infirmière, d'avoir une responsabilité sociale, d'être une femme active, et d'être d'échapper au dilemme soit la putain, soit la mère de famille, pour dire les enfermer dans sa maison, pour dire des choses schématiquement. Bon. Donc les congrégations ont été une émancipation. Et donc dans cette accusation, déjà, il y avait un refus de la part des hommes laïcs, républicains, etc., d'essayer de se mettre en cause et de voir en quoi ils produisaient une affinité entre les femmes et le catholicisme. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, il n'y avait pas il y avait très peu de gens qui étaient libres penseurs, c'était une toute petite minorité. En fait, ce que souhaitaient les familles, c'était à la fois pouvoir bénéficier des secours de la religion et sans trop être sous la coupe des curés. Bon. Et donc, il y avait une dialectique de proximité et de distance, et dans cette dialectique de proximité et de distance, l'homme stratégiquement gérait la distance et la femme stratégiquement gérait la proximité, et les deux se retrouvaient parce que les deux voulaient être enterrés catholiques, les deux voulaient se marier à l'église catholique, les deux voulaient que leurs enfants soient baptisés à l'église catholique, etc. Et en même temps, les deux voulaient pouvoir pratiquer un certain contrôle des naissances, puisque la démographie française baisse très précocement. Bon. Donc il y a aussi une construction sociale. Bon, alors il faudrait voir, moi je ne connais pas la situation chilienne, mais on peut peut-être aussi trouver des faits qui expliquent pourquoi les femmes vont voter majoritairement à droite au Chili et les hommes majoritairement à gauche sans les rattacher à une naissance intemporelle entre femmes et hommes. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, rapidement pour ne pas trop développer le temps de parole, c'est que moi ce qui me frappe, c'est la manière dont une certaine manière de parler, de défendre, de prôner la laïcité est hyper religieuse, c'est-à-dire met vraiment la religion comme si c'était le tout de la société. Et comme si aujourd'hui les problèmes se posaient en termes religieux. Alors ça ne se pose plus en termes sociaux, ça ne se pose plus en termes justement de capitalisme ou de non-capitalisme, etc. Tout ça c'est mort. C'est vraiment le clivage religieux qui devient un clivage essentiellement essentialiste dans la société. Et une autre laïcité qui a été celle qui a fait la loi de 1905, était une laïcité plus sobre, qui disait « n'oublions pas la question sociale ». Bon, c'était Jules Guesde qui disait que l'anticléricalisme était l'anticapitalisme des imbéciles. Bon, alors sans aller jusque-là, des gens comme Jaurès, ils ont relativisé, disons, le combat anticlérical en disant ça fait oublier la question sociale, et aujourd'hui, là aussi, l'histoire se répète, et on a l'impression qu'une inflation de la mise en avant d'un drapeau laïcité, mais qui est pris comme, qui est à mon avis manipulé et qui est pris comme otage, pour poser les problèmes en termes de religieux, et hypertrophier le religieux dans la société, dans les deux sens, disons, puisque ce discours aussi insiste sur les racines judéo-chrétiennes. Et donc on est non plus dans l'histoire, mais dans une sorte de transhistorique, parce que les racines, ce n'est pas l'historicité d'une société, c'est revenir au-delà d'une histoire, donc une mythologie un peu transhistorique. Donc il y a ces deux aspects que je voulais souligner.
Alors maintenant, avant de...
Certainement, pas c'est sûr que
oui,
j'ai compris.
Mais
j'ai pas compris.
Oui, oui, oui. Stéphane, on va pas introduire des dialogues, sinon on est fichu. Et je suis certain que Monique Crinon et Marie-Laure Bousquet veulent réagir aux observations, analyses et questions qui viennent d'être posées. Et ensuite, on passera à une autre série de questions.
Mais très brièvement.
Je vais juste terminer ma main en deux phrases. Ma question à Madame Crinon, c'est... Pourquoi vous mettez, vous voulez souligner la possibilité d'un féminisme musulman, mais pourquoi par ailleurs, en même temps, vous n'avez pas comme objet de bataille, la possibilité pour des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes de ne pas porter le foulard quand leur copain ou leur frère change sa voix,
d'accord. Bon, alors.
D'abord, sur la parce que non seulement il y a eu hypertrophier, disons, le phénomène religieux dans la société, mais ça a été surtout de considérer que pour une femme musulmane, la composante majeure, quasi unique de son identité, c'était l'islam. Et donc, c'est la négation de la pluridimensionnalité de notre identité. C'est-à-dire que, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, il y a, chez elle, comme chez tout le monde, une complexité, surtout dans nos sociétés modernes, et là je vais répondre à ce que vous avez dit, surtout dans nos sociétés, ce que j'appelle des attachements ou des composantes de nos identités qui sont multiples. C'est effectivement quelque chose qui procède d'un processus de domination que de ravaler une catégorie de population à une espèce de simplicité de son identité. C'est une façon de les construire dans une forme de, sinon de sous-humanité, mais en tout cas d'humanité très réduite et très pauvre en quelque sorte. Et ça participe, selon moi, d'un regard patriarcal. Voilà, d'un regard de domination. Patriarcal et colonial en l'occurrence. Mais bon, on n'a pas eu le temps de s'étendre là-dessus. Donc voilà, c'est pas seulement pour la société, c'est aussi pour cette catégorie de femmes d'en faire en somme des actes tellement simples qu'elles sont musulmanes avec un foulard, point barre. Et qu'elles connaissent l'islam, rien d'autre. En gros, il n'y a rien d'autre. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois que vous avez eu raison d'insister sur le fait que l'espace religieux, c'est pas seulement la religion, mais c'est les congrégations, les trucs caritatifs, etc., ont été des lieux dans lesquels, grâce en partie à la séparation des sexes, des femmes ont pu peu à peu s'exprimer. Et je dis volontairement grâce à la séparation des sexes. Parce que c'est paradoxal, ça n'a pas été fait pour, mais ça a produit ça. De la même manière que pour nous les féministes, nous avons considéré qu'un des impératifs premiers pour construire notre liberté de parole, notamment et d'existence, ça a été de séparer les sexes, c'est-à-dire de nous réunir sans les hommes, même s'il y a toujours eu des débats, mais enfin globalement ça a été ça, eh bien paradoxalement, les religions, et la religion catholique notamment, en créant des lieux séparés, a créé des lieux dans les femmes, dans lesquels les femmes se sont retrouvées seules, et ça a été des lieux d'échange, de construction de savoir et de libération de la parole. C'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup, lorsqu'on remonte dans l'histoire, sur le rôle important des monastères de femmes. Et là-dessus, bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, et ça joue un peu de la même façon aussi pour toutes les religions. Voilà. Pour toutes les religions. Alors, le troisième point, et j'en terminerai là-dessus, lorsque vous dites que la signification du voile est multiple et que cette multiplicité de la signification est une résultante de l'évolution de nos sociétés, bien évidemment, pardon ?
De nos débats.
Oui, bah, pas de nos débats et de nos modes de vie. C'est-à-dire que on est dans un monde dans lequel, avec la circulation des formes d'oppression et les risques d'uniformisation sont là, mais également la circulation des pensées et des idées. Nous avons travaillé, j'ai repris contact avec Marie Fouladi pour travailler et rencontrer des Iraniennes il y a 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi, hein, je ne sais plus, Catherine, eh bien, c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec des femmes qui étaient les moteurs, les fondatrices de la campagne 1 million de signatures tatata pour les droits des femmes, et de voir à quel point, effectivement, de l'intérieur de cette société, elle mène un combat, et que ce combat, évidemment, est imprégné de nos idées, des idées, d'un certain nombre de... Voilà. Hein, donc, c'est pas un isolat, c'est clair. Et le recyclage, de la même manière qu'on n'est pas musulmane, de la même manière aujourd'hui, en France, en 2010... qu'on ne pouvait l'être en 1980 ou qu'on pouvait l'être, etc. De la même manière, on n'est pas catholique, on n'est pas femme aujourd'hui, de la même manière que l'étaient nos arrière-grand-mères, etc. Donc, tout ça se joue dans un contexte qui est un contexte dans lequel les pensées circulent, les modèles de comportement circulent, pour le pire et le meilleur, mais, et je crois que vous avez tout à fait raison, là, je n'ai pas eu le temps d'insister beaucoup, mais un contexte de crise sociale, économique profond, et évidemment la question de l'islam joue un rôle tout à fait particulier, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà.
Juste dire une chose, puisque vous avez été deux à faire allusion, enfin trois, je ne sais plus, à faire allusion aux histoires de vote de femmes par rapport au vote d'hommes. Hein? Et que pendant longtemps, bon, enfin, dans notre pays ici, et, enfin, voilà, là, enfin, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ça m'a fait penser à quelque chose qui est... où est-ce que j'ai lu, alors mais sûrement comme vous êtes très savant ici aussi, où est-ce que j'ai lu que qui a comparé les votes sur l'extrême droite il n'y a pas longtemps, dans une revue, est-ce que c'est dans Sexisme, le premier numéro de sur sexisme, racisme et anticolonialisme, il y a deux numéros, hein, qui est plus sur la situation française et l'autre sur la situation internationale. Et dans le premier numéro, je crois que c'est l'article de Christine Delphi ou de Quintin, je ne veux pas l'assurer, où elles ont analysé les votes pour l'extrême droite, masculin et féminin. Et que, alors bon, sociologiquement parlant, je suppose, puisqu'elle est sociologue, ça doit être oui, fiable, où elle dit que les femmes votent moins extrême droite que les hommes. Donc c'était pour...
Mais c'est juste que sur cette question des votes, juste un mot, il faut faire très attention à ne pas essentialiser le vote. Parce que évidemment, si on regarde, moi je travaille, actuellement j'étais dans le Pas-de-Calais, à Bully-les-Mines, à Liévin, je peux vous dire que l'effondrement de quelques élus et quelques responsables associatifs devant les résultats de certains bureaux de vote au score du Front National, si on y va comme ça, on va essentialiser les quartiers, on va essentialiser des catégories de population. Le vote, l'expression dans un contexte social, économique dans lequel les questions d'identité jouent évidemment, est l'expression de quelque chose qui n'a rien à voir avec une supposée essence de tel ou tel.
Non, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Oui, je suppose que l'appel à la mise en relation avec les questions sociales que vient de faire Monique Rinon suscitera de nombreuses questions. J'en ai trois. Alors, madame d'abord, ensuite monsieur, et ensuite monsieur, et après, pour le tour suivant, ce sera vous. Alors, d'abord madame, indiquez votre nom d'abord.
Je suis d'accord avec beaucoup des choses qui ont été dites ici, en particulier par Monique Crignon, y compris l'importance des monastères de femmes, mais ça c'est vrai jusqu'au XVIIIe siècle, parce que
oui, c'est bien sûr l'enfermement. Oui, c'est autre chose qui a joué.
Cela dit, j'ai une petite difficulté tout de même, un petit peu ce que disait Martino, la formule oublier, on veut leur faire oublier leurs attachements. Parce que j'ai l'impression qu'il s'agit très largement aujourd'hui d'un phénomène nouveau. Un phénomène nouveau qui prend des formes modernes, par exemple, c'est très compliqué, mais ça, ils ont à voir aussi avec l'identité, mais pas seulement avec le religieux, par exemple. Donc ce n'est pas un souvenir. Une réinvention.
C'est intéressant.
Quand on voit en plus. Bon, le féminisme, il est quand même l'aboutissement d'un processus qui vient des Lumières et qui est un mouvement de sécularisation au terme duquel on s'est quand même beaucoup dit, en gros, la religion, c'est quand même pour les droits des femmes. Hein, c'est pas si simple que ça, mais bon, parler de la religion catholique, de l'évolution sur la protection, l'avortement, etc. Les féministes sont toujours en difficulté avec la religion qu'elles voient assez bien comme, comment dire, l'armature idéologique du patriarcat. C'est pas comme ça, c'est pas comme l'idéologie du patriarcat. Donc voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose que je voulais essayer de dire. La deuxième, c'est qu'à la vie, c'est-à-dire, on a enfin une position sur ce débat sur la burqa. Elle est simplifiée de façon un peu constante, c'est parce qu'on est pas d'accord, mais en gros, on trouve que ça n'a rien à voir avec la laïcité et rien à voir avec le féminisme.
Bravo.
Rien à voir avec la laïcité.
C'est vraiment bien.
Bien garder, s'occuper de vêtements, de ces sortes de cultivité, le chamois de cire, aller à l'Assemblée, aller au Parlement avec la soutane et ça dérange à personne. Bon. Rien à voir non plus avec le féminisme qui a été manipulé comme jamais. Alors, pour des raisons qu'on comprend, je disais tout à l'heure, féministe, l'invision, il y a une difficulté forcément en termes de droit des femmes. Mais là, c'est tout le féminisme qui a été instrumentalisé par des gens qui n'en avaient rien à faire. On entend des gens revendiquer de l'égalité des sexes, mais on croit que c'est toute la journée sur cette fois-là. Et en revanche, notre prise de position s'appuie sur, je ne sais pas si on a pu utiliser le terme, justement, sur la naissance du débat en 89, l'affaire de Creil, etc., parce qu'Alain Bondel, par exemple, c'est très bien, on s'est manipulé par des gens qui sont des nostalgiques de l'Algérie française, on est en pleine montée du Front National, rappeler ce contexte, permettre de clarifier les choses, d'une part, et puis d'autre part, il y a, on a quand même un espoir aujourd'hui, c'est que l'échec du débat sur l'identité nationale a sans doute ramené un certain nombre de gens relativement à la
réponse. Oui. Monsieur, votre nom, et s'il vous plaît, en privilégiant l'aspect question, s'il vous plaît.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement une question qui est compliquée, mais au-delà de la critique, enfin, conjuguant la critique, quel type de laïcité est qu'elle met en avant aujourd'hui, dans le contexte actuel? On parle de 1905, et effectivement, je pense que ça fait beaucoup de choses qui se reprendre, mais quel type de laïcité on met en avant dans ce contexte qui est nouveau, qui est enfin, relativement nouveau qui traverse plusieurs pays de cette islamophobie qui prend diverses formes, la Suisse, concernant la France, ne serait-ce que du point de vue de l'histoire coloniale et du type d'immigration, mais il y a quand même des éléments qui se retrouvent dans la plupart des pays européens. Donc, quel type de laïcité, quelle voie d'émancipation on met en avant, quelques principes, quels actes? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. En sachant que, pour ma part, je me rappelle avoir lu un petit texte de deux dirigeants de la LDH qui me semblait intéressant sur cet aspect, mais j'aimerais aller un peu au-delà de ça, qui distingue trois espaces dans lesquels la laïcité. L'espace institutionnel qui, lui, doit être laïque. Donc, en France, il y a cette fameuse prise de laïcité, donc, dans le cadre de l'école, par exemple, des locaux, des consignes et des enseignants. Quant aux enseignants, je pense que c'est un autre débat. Je suis en train de changer sur cette question de neutralité religieuse, qui est une question compliquée, mais on peut discuter. Et d'autre part, ils font bien entendu la séparation entre l'espace public et l'espace privé. Il y a toute une tendance dans la laïcité de renvoyer la religion dans la sphère privée, et qui est, à mon avis, catastrophique. Et qu'il faut aussi mettre en avant l'aspect du droit collectif. Que la religion, les religions, tout comme les organisations politiques et les associations, ont droit à une existence collective dans le cadre commun. Donc voilà.
Je vous remercie. Alors, Pascal Hiloute.
Pascal Hiloute de Riposte Laïque. Ma question s'adresse à vous, Madame Chouignon.
Toutes les questions sont pour toi.
Bon, d'abord, je n'aime pas beaucoup les phrases du type « on veut leur faire oublier leur racine ». Je suis un sujet et ce n'est pas toujours les autres qui
agissent.
Je suis aussi le musulman, moi le né musulman, je suis aussi sujet, je suis votre concitoyen. Évitez s'il vous plaît de dire « on veut leur faire racine ». Et d'autre part, je pense que ce problème d'attachement, l'émancipation, se détacher de quelque chose, d'une main, d'une prise de main. S'émanciper, c'est ouvrir une main pour en échapper. Et à mon sens, moi, peut-être j'ai une mauvaise interprétation de ce que c'est que l'émancipation, mais pour moi, c'est d'abord le corps de la femme qui est l'enjeu essentiel. Si ma sœur musulmane, si le corps de ma sœur musulmane ne devient pas un objet à elle et non pas un objet de la communauté qui permet uniquement de se reproduire dans la communauté, si elle ne peut pas se bécoter sur les bancs publics, si elle ne peut pas disposer sexuellement de son corps comme elle veut, dès qu'elle a l'âge de 18 ans, et qu'elle peut se marier, ne pas se marier, avoir des relations sexuelles comme elle le veut, qu'elle peut épouser qui elle aime, il n'y a pas d'émancipation. Et donc, une émancipation, c'est d'abord se détacher de ce que vous voulez être comme essentiel à moi. Vous me renvoyez à mon essence, ce qui est toujours celle de ne pas donner éventuellement la liberté à ma sœur, à ma mère, à même mes filles, de devenir finalement membre, parce que quand on transplante une plante, à un moment donné, il faut couper ses racines, enracinées dans un désert stérile de l'autre côté de la Méditerranée, pour s'implanter ici en Europe, et je veux m'implanter aussi en Europe, en adoptant ce terreau formidable de liberté qui permet des racines de...
Une demi-minute, monsieur.
Alors, ma question, est-ce que ce n'est pas contradictoire de me renvoyer finalement à mes attaches?
Je vous remercie. Alors, voilà, nous avons eu donc trois questions.
Alors, je vais reprendre, je suis évidemment bien d'accord avec l'histoire des... en fait, il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'expression que j'ai utilisée, autour de l'attachement. Oui, autour de les attachements. C'est très compliqué de trouver les termes pour rendre compte de ce qui est, je dirais, un élément fortement constitutif de notre histoire et de notre construction de notre subjectivité. Donc moi, quand j'utilise le terme attachement, dont je suis bien consciente qu'il peut être pris dans le sens d'être attaché au sens d'être noué, relié, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense que nous avons une histoire qui est faite d'un certain nombre d'éléments, et pour moi, il y a des attachements auxquels nous tenons, qui sont des attachements choisis, je ne sais pas comment le dire autrement, ou des parts de constitution. Par exemple, lorsqu'il y a eu tous ces débats sur les féminismes, et sur... moi j'ai bien compris, et j'ai en partie partagé à certains moments, la peur de certaines de mes copines, d'un certain nombre de la peur et le sentiment qu'une menace pouvait peser sur les acquis de notre engagement et sur les acquis de féminisme. Ça veut dire que je peux dire d'une certaine façon que j'ai un attachement fort à ces acquis, aux droits, etc. Vous voyez dans quel sens j'utilise le terme d'attachement. Et quand je l'utilise en disant que l'islam, le fait d'être musulmane est un attachement, je l'utilise aussi dans le sens d'un attachement choisi le plus librement possible. C'est-à-dire que l'idée d'attachement n'est pas, pour moi, synonyme d'attachement subi. Il arrive un moment où, effectivement, sur des attachements subis, on est né quelque part, dans un contexte social donné, etc., etc., on a une part de choix, de construction de soi-même qui fait qu'on choisit de garder ou de trouver tel ou tel type. Alors de quoi? Quel autre mot qu'attachement?
Moi, c'est pas le mot qui me gêne. Hein. Il est bien ce mot, moi je le reconnais.
Mais alors là, alors, ah, d'accord, donc le mot, d'accord. Alors là où vous dites qu'il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire que la façon dont l'islam est vécu et dont les femmes sont musulmanes aujourd'hui ici est quelque chose de nouveau, évidemment. Évidemment que c'est nouveau. Parce que, je dirais, nous sommes tous métissés. C'est-à-dire que nous avons tous... c'est-à-dire que les musulmanes comme moi, comme nous tous ici, nous vivons dans une société, nous regardons à peu près les mêmes émissions, nous avons des engagements et des combats communs, par exemple, avec certaines de nos copines, etc., etc. Donc ce n'est pas des ovnis attachés à quelque chose qui est extérieur. Ça participe, effectivement, il y a quelque chose de nouveau dans la façon d'être musulmane, j'imagine, aujourd'hui. Quand on a... Moi, je suis en lien avec des Iraniennes, et je vois bien que la façon dont elles se définissent comme musulmanes et la façon dont se définissent certaines copines musulmanes ici n'est pas tout à fait la même. Les priorités ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas dans la même société, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc,
Oui, il y a un phénomène nouveau, mais ce phénomène nouveau est le fait que des femmes, notamment des plus jeunes, revendiquent leur foi, leur appartenance à une religion, eh bien, ça fait partie, pour elles, d'attachements choisis et pas subis. Et là, comment... Non, mais alors attendez, sur cette histoire de choisi et non choisi, le non-choix, je le trouve partout. Alors là, je serai très ferme là-dessus pour travailler dans les quartiers dans lesquels je parle, la prostitution de fin de mois, excusez-moi, on va parler du choix. D'accord ? Et on va parler des phénomènes de cet ordre qui sont des phénomènes dans nos sociétés qui ne sont malheureusement pas des phénomènes répandus. C'est pas propre à l'islam. Je veux dire que cette idée de subir un sort et d'être déterminé, je crois que nous sommes tous d'ailleurs, hein, plus ou moins, et nous avons des déterminismes. Moi je suis assez spinoziste, hein. Je pense que on se débrouille avec les déterminismes qu'on a et on essaye d'y voir clair. Et là où je suis d'accord, c'est que la laïcité garantit un espace dans lequel effectivement le débat public et la circulation des idées se fait de la façon la plus libre possible. J'ai dit au départ que la laïcité était un processus historique émancipateur, le féminisme aussi, mais ce sont deux objets distincts. Et j'ai voulu marquer que ces deux processus qui effectivement ont pu s'entraider à un moment de l'histoire ne sont pas nés d'un même mouvement. Ils ont eu même des relations houleuses, et ils ont avec des moments contradictoires. Donc, loin de moi l'idée de considérer que la laïcité n'est pas un processus d'émancipation. C'est un processus historique important. Et la conception de la laïcité que vous rappelez, qui est celle de la LDH, moi, j'en ai pas trouvé de meilleure. Alors, c'est peut-être que j'ai pas assez cherché, mais elle me semble extrêmement claire. Et elle permet de penser cette question-là de façon saine. Voilà, je c'est pas parce que je fais, mais je n'en ai pas trouvé de plus clair entre eux. Alors après, il faut évidemment, on peut réfléchir à l'espace public, aux institutions, qu'est-ce que c'est que la neutralité, etc. On peut rentrer dans les détails, mais je dirais cette distinction en trois espaces, trois sphères, me semble tout à fait bonne et intéressante pour avancer dans la réflexion sur cette question-là, et y compris penser les différents mouvements d'émancipation qui existent encore, parce qu'il y a le féminisme, mais il n'y a pas que ça, qui sont là. Donc, voilà, sur la laïcité. Alors, leur faire oublier, lorsque je parle d'attachement, je ne parle pas nécessairement de racines. Et en effet, je crois que notre passé, nous le reconstruisons constamment. Si vous me demandez de parler de mon enfance aujourd'hui et ici, je ne vous en dirai pas la même chose que j'en dirai demain lorsque je serai dans un comité de pilotage à Bully-les-Mines. D'accord ? Donc, je prends Bully-les-Mines parce que je suis un peu obsédée par le vote FN de Bully-les-Mines où on travaille. Mais bon, mais ça peut être, j'ai rien contre Bully-les-Mines à part ça, mais ça peut être n'importe où. Donc, nous passons notre vie à nous construire en réinventant notre histoire, en la revisitant, en remobilisant des éléments qu'on a pu oublier à certains moments, mais en construisant d'autres. C'est-à-dire, nous construisons le propre mythe de nous-mêmes, en racontant nos racines et nos fondements. Donc, ce que j'ai voulu dire en parlant de ces esclaves à qui on veut faire oublier leur identité, eh bien, pour moi, c'est une image que j'ai voulu mobiliser, certes un peu forte, mais qui me semble être une image qui représente, pour moi, le mieux, l'injonction qu'on fait peser sur les femmes musulmanes, à qui certaines féministes, pas toutes, mais un courant féministe fort, demande, au fond, de faire plusieurs fois le tour de l'arbre sacré pour oublier d'où elles viennent et enfin rentrer dans la civilisation. Voilà. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, mais je crois vraiment qu'il y a eu quelque chose qui était une pression terrible sur elles, qui les construisait avant même de les écouter, et qui les, encore une fois, les ravalait à une identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplifiée et d'une humanité appauvrie. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est tout. Mais c'est pas tout le monde fait ça.
Attends, Pierre, il y a Marie-Laure qui veut réagir.
Justement, je voulais dire que je suis certain que Marie Bousquet ne veut pas essentialiser Bully-les-Mines.
Non,
je suis sûr qu'elle a quelque chose à dire.
Mais non, je suis. Oui, c'est normal, c'était le sujet. Mais j'étais en train de me dire, c'est curieux. on est dans nos attachements ici, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de notre hexagone, mais c'est le sujet, hein, France, la laïcité, oui, c'est
pas cherché ailleurs.
D'accord. Ça, c'est une première chose. En fait, ça m'a frappé. La chose que je voudrais dire, c'est que vous venez de parler de d'émancipation et donc de je fais ce que je veux, donc ça arrive aux notions de liberté. Hein? Bon, liberté. Alors, ce que des musulmanes d'aujourd'hui, féministes, dans différents contextes, etc., disent et essayent de pratiquer haut et fort, c'est que liberté et égalité, ces mots-là, et liberté, égalité, elle refuse que, nous refusons que ce soit que le ces concepts-là soient la sécularisation de ces concepts-là comme étant des appropriations éternelles d'un sécularisme éternel. Les concepts de liberté et d'égalité sont des concepts qui font partie, je ne sais pas, de quelque chose, d'une pensée universelle dans son ensemble, et qui n'est pas l'apanage, ni la propriété, ni la... Oui, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Oui, d'une société sécularisée, enfin sécularisée, vous savez, c'est dans le mot anglais là, secularist, qui est un peu compliqué. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire. Et pour revenir à ce livre dont La politique de la piété, son premier chapitre s'intitule, non mais c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait penser, Le sujet de la liberté. Le sujet, enfin la personne, le sujet de la liberté. C'est très intéressant de se plonger là-dedans. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais dire que ce qui me semble bouger aujourd'hui, par rapport à nos attachements, nos enracinements et nos histoires, c'est que de façon difficile, bien sûr, en conflit, mais que ça nous fait prendre conscience de nos divers, à chacun et à chacune, de nos divers, des multi-layers, on dit en anglais, des multistrates de nos identités plurielles. Et je trouve que ça, c'est quelque chose... Alors vous allez me dire, mais oui, il y a des invariants, nous parlons tous la langue française. Oui, par exemple, la langue, est-ce que c'est vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas qui c'est, des invariants, là, tout ça. Oui, ces mots, par exemple, je ne les emploie jamais. Invariants, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais il me semble que, quand on réfléchit à, oui, ce qui constitue des... Bon, la langue, c'est quelque chose d'important, quand même. Mais est-ce que la langue, c'est un véhicule unique, ou bien est-ce que ça s'imprègne... Enfin, est-ce qu'une langue est une chose unique en soi ? Bon, elle est vivante. Bon, donc, je veux dire, bon, ben voilà. Alors, je ne sais pas comment dire comme ça. C'est que... Et que j'ai eu un moment... Il m'a semblé un moment qu'il y avait... Il y a le « nous ». Le « nous ». Ici, et puis il y a le L. Entre le nous et le L, le nous pas musulman et le L musulman, etc. Je crois que, ben non, justement, non. C'est pas forcément comme ça. Et que ça construit des possibilités de revisiter les attachements, les enracinements, de les transformer, etc. Je trouve ça, c'est très important.
Bon. Merci. Avant de passer aux trois intervenants suivants, il y a environ trois quarts d'heure encore, je crois qu'on a largement un temps de discussion. Je veux, même si je dois un petit peu heurter la modestie de mes trois voisines de gauche, signaler qu'elles ont co-signé sur un texte qui s'appelle « Lettre à Vassila Tamzali », dans lequel elles résument avec beaucoup de pertinence leur pensée, que vous pouvez trouver cette lettre, elle
mal.
Est toute récente, hein.
Oui.
Ça date d'il y a quelques jours, hein.
Il est réfléchi.
Vous pouvez trouver ça sur Internet, chercher avec un comme ça, sur Internet. Vous trouverez certainement avec
vous. Vous avez, en tout cas, non mais pour mettre un peu du
mot,
compte tenu de la composition de notre collectif, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, on réfléchit pour trouver. Mais non, parce qu'il faut arriver à trouver des mots exacts.
La pensée complexe
qui ne trahissent aucune d'entre nous.
Voilà, je les ai pris en traître et ça se voit. Bon, alors maintenant, Bénédicte Duchaffaud.
Est-ce que, comme je pourrais préciser,
oui.
Pourquoi cette lettre enfin, le mot,
ah bah parce que Wassim Tanzali a commis un livre, je me souviens.
Oui, elle a écrit un livre, en fait. Voilà, donc c'est
une femme en colère.
Une femme en colère.
Il y avait son portrait dans le monde.
Voilà, une femme en colère, dans lequel, en fait, elle fustigeait les laïcs et les féministes.
Les féministes comme nous.
Les féministes laïcs, pour faire court.
Qui trahissent.
Qui, en fait, ont abdiqué sur la question... C'est déjà des gens à dire que ces mots, c'est invariant. En fait, voilà, sur une espèce de thématique qui ferait que voilà, elles auraient abdiqué face justement à cette
islamisation
rampante et ce recul des droits des femmes. Et donc, avec Catherine Samaris qui est là, puisque c'est notre quatrième co-auteur, nous avons jugé tout à fait opportun de lui répondre en disant qu'en tant que féministe française, laïque et pour ma part musulmane, nous lui répondions en tant que féministe et que nous n'avions reculé sur rien et que bien au contraire, nous étions dans une démarche d'ouverture et que en même temps que nous entendions sa colère, nous répondions de manière argumentée et structurée.
Vous trouverez sur le site.
Oui, tout à fait, oui, je vous enverrai le lien puisque vous êtes affiché maintenant.
Mais moi j'ai été d'autant plus bouleversée que Wassila Tamzali, à une époque, j'ai fait des choses avec elle. Donc quand j'ai vu son évolution et que j'ai vu ce texte qui a une certaine force, il ne faut quand même pas le sous-estimer. C'est vraiment le genre de texte qui marque l'imaginaire, qui alors qui comment
et qui est très bien accueilli,
qui est très bien accueilli par
très bien relayé,
donc moi pour nous c'est un texte qui était dévastateur parce que ça fait vraiment reculer selon moi enfin ce qu'on construit, ce qu'on essaye de faire ensemble. Bon voilà, donc c'est ça le point de départ de la démarche, parce qu'elle est passée sur toute partout, hein, son petit livre a fait l'objet d'une publicité importante, notre texte beaucoup moins.
Raison de plus pour en parler. Bon, alors donc Bénédicte Duchaffaud, votre question.
Mendela là-bas.
Hein.
Oui.
Mendela.
Oui, mais alors.
Bénédicte.
Alors moi je voulais. Bénédicte. J'avais beaucoup apprécié vos deux prises de parole et sur le fait notamment que vous insistez sur le côté processus mis en œuvre, enfin, le débat, voilà. Parce que je pense que c'est vraiment de cet ordre-là, la réalité de ces mouvements qui sont en train de continuer à avancer. Alors, à Marie-Laure, je voudrais poser la question de l'impact de ces mouvements féministes, notamment aussi à l'extérieur de l'Hexagone. Alors, je pense qu'à travers les colloques, tu pourras peut-être nous dire quelque chose, mais ce qui est pas intéressant, c'est que ce dont j'ai eu le sentiment, c'est que ça a travaillé aussi beaucoup par Internet pour contourner justement le pouvoir des autorités même prévues. Et que c'était quand même une bonne façon de travailler et de se mettre en lien entre des pays ou des femmes qui sont dans des contextes culturels extrêmement différents. Et moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, ça fait évoluer des choses et que c'est intéressant pour des femmes qui sont en Europe ou même en France, avec cette conception très particulière de la laïcité, d'être en rapport avec des femmes qui travaillent dans des contextes complètement différents, notamment en Palestine, etc. Et alors, ma question c'était là-dessus, c'était sur leur efficacité et aussi sur l'efficacité de cette expression des mouvements féministes musulmans en France à l'intérieur de l'Hexagone, parce que moi j'ai le sentiment que malgré tout il y a des avancées, que le fait d'avoir touché le débat sur le niqab, ça a d'une certaine façon en rétroaction peut-être permis à la réalité du voile de se laisser mieux accepter. Enfin, ça déplace les bornes, le débat déplace petit à petit les bornes, et finalement je pense que ça contribue quand même à, c'est le côté positif des choses, mais à faire accepter des évolutions, des représentations de ce qu'on imagine pas. Voilà, et je me demande, deuxième question, s'il ne faut pas très fortement interpeller
J'utilisais Marie-Laure, égalité spirituelle de l'homme et de la femme, est proclamée dans le Coran, mais structure patriarcale qui fait fonctionner bien d'autres schémas. D'accord. Il y a une autre notion qui est une notion de nature féminine qui fonctionne très fort dans toutes les traditions pour dire que la femme est telle et telle et telle, etc. Elle est séductrice, elle est prédatrice, elle doit être protégée dans sa virginité, etc. Et comment ces représentations, cette conception qui finalement est quand même surtout une construction sociale, comment cette nature féminine qui est souvent défendue doit être travaillée pour qu'on la fasse bouger. Et je veux dire, ça, dans toutes nos mentalités, je pense que les conceptions qui sont très fortes encore.
Voilà. Monsieur,
je suis Colin, j'appartiens à un nouveau collectif qui s'appelle le collectif Unifar de l'islamophobie. Donc je voulais juste dire que c'est une forme de question. Je pense qu'il y a une question très importante, c'est que faire pour distribuer par rapport au problème de l'islamophobie. Donc je ne sais pas pour nier tout le travail de réflexion, j'adore les colloques, je viens à chaque fois, c'est très important de réfléchir, mais je voulais juste dire que je pense qu'il est temps de réagir, il ne faut pas laisser passer les soi-disant de la page islamophobe, les tags sur les mosquées, etc., etc., les propagations de cimetières. Donc ceux qui sont opposés à cela devraient s'organiser et riposter pour envoyer un autre. La question, que faire? Maintenant, j'ai une petite intervention sur ce qui, selon moi, est de côté complètement anti-féministe, d'une certaine conception de la laïcité, c'est que, comme par hasard, à chaque fois que la question du droit, la question de l'islam, de la laïcité, de la défense de la laïcité, etc., vient au devant de la scène, c'est quand les femmes voilées veulent participer
à la vie publique,
sociale, la vie.
À la vie publique.
C'est les filles qui ne doivent qu'aller à l'école publique, c'est les mamans d'élèves qui demandent à participer au conseil d'école, qui demandent à accompagner leurs enfants lors de sortie scolaire. C'est aussi, mais c'est tellement institutionnalisé en France que personne ne se pose la question, mais la femme qui voudrait devenir, la femme voilée qui voudrait devenir enseignant ou fonctionnaire, elle n'a tout simplement pas le droit, alors que dans d'autres pays, ça va de soi. Non, vous ne pouvez pas travailler dans tel secteur ou cadre dans le privé. Retournez-vous à vos taxiphones, vos épiceries, vos auto-écoles dans la communauté musulmane, etc. C'est vraiment reléguer les femmes musulmanes voilées dans une certaine sphère de la société. C'est aussi, mais c'est dommage que la camarade n'a pas quitté la salle, il paraît qu'il y en a qui veulent même faire la politique maintenant.
Elle vient de partir. Non, elle est là, elle revient là. Je pense.
On ne demande pas encore aux femmes voilées d'enlever leur voile pour aller voter. Hein, mais par contre, être candidate, apparemment, ça crée un énorme scandale. C'est quand les femmes veulent participer, quand les femmes voilées sont actives, quand les femmes voilées veulent faire partie de la société, qu'on dit non. Alors, oui, ça rejoint la question très bien posée par le camarade suisse sur la distinction, la fausse distinction, selon moi, entre sphère privée et sphère publique. C'est comme si on voulait dire aux femmes voilées, on n'a rien contre vous, on n'a rien contre vos croyances, on n'a rien, mais retournez-vous au foyer. C'est votre place. Voilà.
Merci.
C'est que le rapport est féministe, si vous voulez.
Non. Merci bien. Alors, Ndella, c'est ça votre nom?
Oui. Je fais partie du collectif des élites pour l'égalité.
Je voulais
d'abord remercier mes deux copines
qui ont bien intervenu.
On
les remercie aussi.
C'est vraiment parce que c'est des copines, mais c'est pour ça qu'on s'appelle au collectif. Donc, ça n'est pas une question, mais ce serait plus sous forme de témoignage un petit peu. Parce que ça m'a beaucoup touché quand Monique a parlé justement de ce rôle des filles voilées, de ce rôle qu'on a en français dans la société civile et chez nous, entre musulmans, qui est très très délicat. Parce que d'un côté, en fait, on est considéré d'une part et d'autre comme des pions, en fait, qui sont utilisés par l'autre partie.
Voilà. C'est vraiment très très difficile. Il y a partie de mon contrat, j'ai participé aussi à une intervention consciente mais interne à la société musulmane et c'était pareil.
Qui manipulait par nous.
Qui voulait aussi parler du droit des femmes dans l'islam et tout. Et puis, dès qu'on définit comme féministe déjà, bah, on est taxé. Ah, c'est toi qui veux devenir un homme, ah, je sais pas, tu veux. C'est très très difficile. Nous voulons changer la religion parce que les autres vont nous dicter notre façon de faire. C'est une situation qui est très très difficile, mais qu'on assume hein, quand on est des leaders, des bagarrons, on est prêt à assumer ces choses-là. Et juste pour aussi, tout à l'heure, je crois la dame de Bon, en posant la question à Monique, elle avait parlé du droit à ne pas mettre de foulard. Nous, au collectif des féministes pour l'égalité, au départ, quand on s'est fondé,
c'est la charte.
Le droit dans la charte est de
c'est notre charte de départ.
Supposer le droit de ne pas le mettre en responsabilité. Et pour nous, il n'y a même pas de confusion, quoi. Il est de deux droits.
Mais comment vous l'avez fait pour ça, c'est qu'on a dit
bah, deux droits, on l'a fait.
Tout à fait. C'est ça aussi qui est un peu difficile, parce que même dans les manifestations de
génération, ah, oui.
Pour faire l'avortement ou pas, pour pouvoir. On demande toujours aux autres qui ne nous demandent pas, mais à nous, voilà. Est-ce que vous êtes pour l'avortement pour pouvoir. C'est toujours sous-entendu qu'en fait, ce qu'on est chargé, c'est assez pénible. Mais donc vraiment pour je tenais vraiment à souligner cette loi qui est très très délicate d'une part et d'autre, on est vraiment assigné à une non-place, je dirais. On n'a pas de place finalement, parce qu'on contrebalance de ce côté vers l'autre. Et en tout cas, c'est dommage de me gêner plus là. Moi j'adopte ce terme-là, il me plaît finalement
attachement. Pas trouvé mieux pour l'instant.
Ça reflète encore plus ce que je ressens aujourd'hui.
Bon, merci à toutes les copines, donc. Et votre nom, s'il vous plaît. D'accord.
Alors,
on n'a pas entendu le nom. Il s'appelle Hanan. Et je suis militante LPA, galérienne dans la vie. Tout ça. Et ça fait 50 minutes.
Ouais.
Sur l'entre-guerre. Ensuite, je me suis vachement rapprochée des camarades d'extrême gauche, même c'est en particulier, mais qui ne m'a pas accepté. Enfin, j'ai compris ou expliqué ça parce que le contexte n'était pas bon. Aujourd'hui, le NPA, ben, malheureusement ou heureusement, ça va susciter ou ça suscite un débat, c'est la présentation de la candidature du LAM, même si elle était quatrième sur une liste inéligible, c'est déjà tout ce qu'on a pu entendre, c'est violent. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, et j'aimerais bien un petit peu d'optimisme, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question-là, si elle revient, est-ce que ça sera beaucoup plus simple? Mais je ne pense pas. Ou est-ce qu'il y a déjà des acquis pour pouvoir avancer et pas se laisser enfermer? Parce que quand je dis galérienne, c'est la réalité. Parce que comme un animal, et pas, il y a une égalité, un homme-femme pour aller chercher son salaire. Et bon, moi, il ne m'empêche pas d'aller travailler dans le monde. Malheureusement ou heureusement, j'en sais pas. Et que je ne voudrais pas être en tant que musulmane, et c'est en tant que musulmane, pas sans le voile, c'est ce qu'on cristallise. Et c'est la pourtant en particulier parce que ça rentre. Le fait, il a très bien compris le truc. Avec son affiche, elle est magnifique. L'affiche qui nous a pondu là, avec le drapeau algérien, la meuf en premier plan et les minarets, il a sorti le soir des premiers coups. Il a vraiment compris, et que malheureusement, ce n'est pas une particularité française. En Europe, on est parti. Pour que les mouvements d'extrême droite, ils n'ont plus besoin de dire immigrés, et en plus ils donnent une bonne couverture en attaquant l'islam, et pas l'islamisme comme ils voudraient nous faire croire, comment on fait pour ne pas s'enfermer dans ce truc-là avec la crise qu'on a, le coup qui nous attend, parce que voilà, c'est pas vrai que c'est que le gouvernement, et en plus on était déterminé, mais la réalité c'est que c'est en train d'être pire. C'est pire que moi, je ne vais pas commencer à détailler, mais je tape pour moi, je tape pour mes parents. Alors qu'en fait, elle a travaillé 37 ans dans ce pays. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on lui a tout sucré. Et que s'il refuse sa retraite aujourd'hui, on lui force à la prendre, mais c'est 30% au moins. Et s'il refuse, ben, il a encore 2 ans à attendre. Et 2 ans à attendre avec 5 personnes à la maison, je ne vous explique pas. Et ça, c'est ce que m'a dit ma mère, qui, pour être politique, elle me dit que c'est son passant. Il y a 5 ans, elle me disait c'est un passant, et aujourd'hui elle me dit alors, le premier tour, tu peux me raconter un petit peu, je n'ai pas eu au téléphone pendant 3 semaines, et c'est le premier truc qu'elle m'a demandé. Et c'est parce que, comment on fait, et c'est, moi je centralise,
place ça sur les quartiers populaires en particulier. Parce qu'on est ici des colonies ex-colonisées ou colonisées actuelles, hein, c'est-à-dire il n'y a pas la politique française en Afrique et au Mali en particulier, et au Tchad, je veux dire, s'il y a des Maliens en France, c'est pas ailleurs raison aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, actuellement, on dit que les Maliens, on n'a rien à faire au Mali. Si on a beaucoup de choses à faire, on y est. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir et pour ne pas se couper? Parce que là, c'est pas vrai qu'il y a un dialogue. C'est la méconnaissance d'une population qui pense qu'on a un regard de situation comme ça. Et casser le fantasme comme quoi dans les quartiers, il y a les meufs qui le portent, qui sont contre les meufs qui ne le portent pas et vice versa. C'est parce qu'on a des sœurs, on a des copines, on a des frères. Bref, comment on fait? Comment on fait pour que vraiment, pour mon idée, hein, que la lutte des classes soit vraiment une lutte des classes et pas. Et pas, il y a des lignes intermédiaires entre. Il y a d'abord. Avant le capitalisme, aujourd'hui, c'est l'islamisme. Bref.
Voilà. Merci. Oui, alors.
Je voulais juste un petit appel.
Oui, oui.
Ah, mais c'est un vrai. C'est vrai, parce que tout à l'heure, Marie-Laure aussi avait parlé. L'appel, c'était pour vous, puisque aujourd'hui, dans la. Ouais, quand tu disais que les hommes et les femmes, spécialement dans la religion musulmane, sont vraiment.
Spirituellement, l'égalité spirituelle, oui, que spirituelle, pas l'égalité, spirituelle.
Donc, moi, justement, il y a 4 ans, je suis décidée à faire des études d'arabe pour pouvoir aller aux sources. C'est-à-dire, je trouvais que l'islam a été super, mais une religion interprétée, mais par les hommes. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait une licence d'arabe, et aujourd'hui, je suis en première année de théologie musulmane. Et c'est là où je me suis rendu compte que les possibilités qu'il y avait dans l'interprétation du Coran, que des fois, des versets qui pouvaient être équivoques, comment des fois, quand on est homme, c'est pas forcément quelque chose de calculé, mais des traditions pour forcer à cette interprétation-là. Et que nous, en fait, femmes, si on veut que les choses changent, il va falloir qu'on s'en accapare. Et on peut s'en accaparer que quand on maîtrise, en fait, la langue des sources, de la source de l'islam. Et moi, l'appel que je lance aujourd'hui aux musulmans, aux féministes musulmanes, c'est vraiment d'aller maîtriser cette source-là et de pouvoir apporter des interprétations féminines et féministes de cette religion.
Alors, je crois qu'il y avait une dernière question, mais très brièvement, de façon à ce que tout le monde puisse répondre. Et Isman, non, monsieur avait, c'est ça, vous aviez la main. Alors, très brièvement, s'il vous plaît, et ensuite Isman. Et on finira avec les questions, oui.
Brièvement, moi j'avais 3 questions. Hein. La première, c'est celle de la candidature d'Ilham est arrivée. Tout le monde a demandé comment on pouvait être laïque et porter un voile. Et il se trouve que finalement la laïcité permet à Ilham de se présenter, elle permet à Ilham d'être élu, elle permet à Ilham de porter un truc. Et j'ai jamais compris pourquoi on nous a posé cette question. Et j'en arrive même à dire que finalement c'est eux qui sont pas laïcs. En tout cas dans la classe politique, si on prend la laïcité en termes de loi, c'est eux qui sont pas laïcs. Et moi ma question c'est comment on arrive à renverser ce que la laïcité peut permettre, comment on arrive à lui donner un sens opposé. La première question, et c'est unanime. Donc c'est qu'il y a des mécanismes qui permettent. C'est unanime, c'est que la classe politique
parle à
la
politique.
Pour que toute classe politique puisse dire que ce n'était pas bon, moi j'aimerais bien essayer de comprendre quel est le mécanisme qui amène à ça, au-delà de ça. La deuxième, c'est le féminisme. Moi je suis musulman pratiquant, et le féminisme a permis aux musulmans, en tout cas aux hommes, de bouger aussi sur la question de la religion, et il nous a même permis de plus rester sous le dogme classique où l'imam il disait un truc et c'était fait. Et c'est la question de la femme qui a été le moteur de ça. Et on a même pu, grâce à la question de la femme, s'ouvrir sur l'homosexualité, l'avortement. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a trouvé pour dépasser le blocage sur l'homosexualité, c'est le libre-arbitre. Il y a bien quand même une chose aussi que l'islam dit, c'est le libre-arbitre à chacun de pouvoir faire et il sera jugé par Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas du tout croyants, etc. Mais le fait qu'il est écrit clairement que chacun a le droit à son mari, ça veut dire que moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous empêcher, vous, de porter ou de ne pas porter. Et que si je veux être juste, dans ce cas-là, je suis obligé de me battre pour le libre arbitre de chacun. Et c'est là où on pourrait se retrouver, et dans toutes les
villes. Mais c'est ça.
La troisième, c'est sur les associations. Et là, je porte une critique quand même aux associations. La guerre, le massacre de Gaza, il a montré quelque chose qui était scandaleux. comment ça se fait que parce qu'il y avait des musulmans dans la rue, dont beaucoup portaient le voile, comment ça se fait qu'on a des associations tchèques comme l'LDH, le MRAP, ATTAC, les partis politiques qui ne venaient pas parce que, soi-disant, il y avait une islamisation du conflit. Et ce que j'essaie, moi, de comprendre là, vous allez me dire non, moi je viens d'Avignon, j'ai entendu dans les réunions pourquoi ils ne venaient pas. Et ce que j'aimerais comprendre, en tout cas, c'est pourquoi il y a ce décalage-là. Et c'est des associations qui travaillent la question. Je veux dire, ce n'est pas l'ignorant de qui regarde TFM. Eh bien, on a été devant cette réalité. On a mené des luttes pendant un an sans toutes les organisations de défense de soi-disant des hommes, des hommes et des femmes, etc. Voilà, on les a menés, nous. Et la dernière question que je voulais, la dernière, et ça c'est un problème de cas de conscience, de doute justement, pour dire qu'on en a. Mais dans nos luttes, on a des femmes en burqa. Et ces femmes en burqa, eh bien, moi aujourd'hui je les défends. Et je ne défends pas du tout le port de la burqa, ou quoi, j'ai rien à foutre. Mais il y a une réalité aussi qui est, quand vous avez des femmes qui sont là, et que ce n'est pas la plus conne, hein, Bac plus, je ne sais pas quoi, elle voulait sortir, hein, elle connaît l'histoire, elle connaît les trucs. Donc à partir du moment où vous êtes là, face à une personne qui a de la culture, qui est intelligente, qui est épanouie, qui est bien, eh bien nous on est là, soit on est dans le moule classique, la boucasse, c'est l'oppression, j'ai été au début, mais très vite, et heureusement je me suis enlevé, soit on essaye le rapport à l'autre. Eh bien aujourd'hui, je suis désolé, je ne peux pas dire que je suis contre la boucasse. Oui, je suis contre la boucasse en Afghanistan. Je suis contre l'Iran, je suis contre le Maroc même, tout ce système où ils se servent de la religion en vérité pour dominer les gens, mais une réalité c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc je ne suis pas contre la fille que je connais là qui lutte avec moi avec la burqa, et ça se trouve que je suis contre la fille en burqa là-bas parce qu'elle le met peut-être par provocation ou par obligation et tout. Donc ce n'est pas quelque chose de figé classique, c'est des choses qui bougent, et moi j'aimerais savoir si est-ce que je suis fou, je commence à me mettre à ou est-ce que c'est pas mal d'avoir cette idée d'ouverture?
Donc je vais quitter ma casquette, ou plutôt mon voile là. Secrétaire général de la commission, je suis Isman Schubert. Et je voudrais réagir à plusieurs choses. D'abord réaffirmer, donc en tant que féministe, du collectif avec les copines, que le féminisme est quand même un humanisme. Et que moi, je m'inscris dans la définition... une des définitions qui était donnée par Simone de Beauvoir, qui disait que le féminisme est une notion radicale qui fait des femmes d'abord des êtres humains. Et que, quand j'ai dit ça, pourquoi devrais-je, de manière perpétuelle, continuer à devoir donner des gages d'allégeance et de fidélité, afin qu'on me délivre le certificat de féministe comme il faudrait que je sois féministe? Parce que dans ce qui a été dit, et là je ne cible personne, mais il y a des impensés qui affleurent de manière récurrente. Et ces impensés, évidemment, sont le fruit d'une construction sociale, historique, éducative aussi, parce que nous sommes le produit d'une histoire. Et ça me fait donc embrayer sur ma deuxième remarque, qui est que je ne pense pas, et j'assume fortement ce que je dis, qu'il y ait eu... Des lignes de force qui nous ont fait bouger, sans tomber dans les généralités, sur ce qu'était la signification du voile ou la production d'alibi dans ce que devrait être le voile. Par contre, là où je suis d'accord et j'en conviens, comme l'a très bien dit Monique, c'est que c'est dans notre façon d'en parler qu'il y a eu une évolution. Parce que la façon d'en parler est également le produit de la mise en confrontation et en débat des idées. Et la mise aussi en confrontation, je dis confrontation, je ne dis pas affrontement, mise en confrontation d'individus qui eux aussi sont pénétrés, traversés par des histoires, et ainsi de suite. Donc, la façon d'en parler a évolué, et c'est tant mieux, parce que ça permet d'élaborer, d'affiner et de mieux structurer le discours. Mais la signification, elle n'a pas besoin de justificatif non plus, la signification. J'ai tenté qu'on soit censé de se justifier, de sommer de se justifier sur pourquoi je porte un voile. Et d'autant que dans un espace laïque, ma troisième remarque, c'est que je refuse de consentir à une réduction identitaire. Nous n'avons pas des identités monolithiques et unidimensionnelles. Nous avons des identités multiples. Et je suis aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que la perception que chacune et chacun qui se trouve ici aujourd'hui soit monolithique. Mais la perception majoritaire, malheureusement, dans le contexte que l'on sait depuis 1989, fait que la perception de ce que je dis et de ce que je suis va entrer cette réduction identitaire par le seul prisme de l'enfermement dans un discours religieux, alors que mon discours n'est pas religieux. Alors que quand je parle, ça n'est pas la musulmane qui parle. Mmh. C'est la féministe. Ah, on ne sait pas. Je sais que Stéphane, il est sujet à cause sur. Mais il n'y a pas. C'est ça, parce que, mais je vous rassure, je ne suis pas schizophrène.
Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle.
Je vous rappelle, je ne suis pas schizophrène, mais pour le coup, je veux dire, j'assume ce que je dis. Il y a un invariant et une constante qui fait que Ismaël Schuder, quand elle parle, ça n'est pas Ismaël Schuder qui parle. C'est la perception que vous avez de moi.
Et, enfin, quand on te voit.
Quand on me voit. Mais j'en suis pas responsable, parce que ça se voit. Mais ça n'est pas, moi, dans mon discours et de la façon dont j'ai de militer et de m'engager dans les divers espaces dans lesquels je suis engagée, malheureusement, dans ce cas-là, travaillons, et c'est ce que nous faisons dans cette commission depuis des années, travaillons sur les perceptions, et notamment sur les perceptions qui sont réduites à un type de perception, qui produit de l'enfermement. Et donc, mon quatrième et dernier point, c'est par rapport à l'émancipation. Moi, je récuse que l'émancipation suppose de renoncer à quoi que ce soit de ce que nous sommes. L'émancipation, elle est liée, et c'est parce que, bon, Pascal n'est plus là, mais je veux dire en aparté, l'émancipation, elle est liée pour moi, d'abord, à la liberté de choix. Ça peut paraître une évidence de le dire, mais c'est pas si évident que ça, surtout venant de quelqu'un que l'on perçoit par le prisme, par un prisme unique. Et que justement, notamment dans ce collectif des Féministes pour l'égalité, c'est que nous nous retrouvons certes dans notre diversité, mais justement, nous avons, par rapport à ce dont les copines ont très bien mis en avant, c'est que nous avons identifié une oppression. Et en l'occurrence là, sur cette thématique de féminisme, des oppressions croisées. Et que ces oppressions croisées, elles nécessitent de croiser justement. Bruit de poste. Tout à fait. Non, mais c'est important de le dire comme ça, de croiser le riposte. Et ça suppose ça aussi de sortir, d'accord, de ce que d'aucuns ont intérêt à nous cantonner, c'est-à-dire cette réduction identitaire, réduction idéologique, et le fait que finalement, moi j'en terminerai par là, arrêtons de faire, alors j'adore la sociologie, j'adore les sociologues, mais s'il vous plaît, arrêtez de réduire cette question-là à un objet d'analyse, d'accord, de, on est disséqué, ausculté, et ainsi de suite, et on occupe les questions essentielles qui sont des questions sociales. Voilà, j'en terminerai là. Oui, tout à fait, bien sûr, évidemment. Je sais qu'il y a un grand panel de sociologues ici. Hein.
Oui. C'est vrai, c'est vrai.
Mais, général, je crois qu'ils pardonneront, Ismaël.
Oui, ben je sais.
Alors, nous allons demander maintenant à Marie-Laure et à Monique de s'exprimer sur ce qui vient d'être dit.
Eh bien, enfin, je vais répondre à Bénédicte, enfin répondre, voilà, continuer la conversation, voilà, avec Bénédicte, et je sais pas, Ndella, tu m'avais pas dit quelque chose, si ? Ah oui, par rapport à, oui, à l'histoire de l'arabe et de la réinterprétation, ouais, bon. Alors, je me suis noté parce que je ne me rappelais plus. Internet, les réseaux, l'efficacité, le nombre, ce que ça représente sur les plans internationaux, ce mouvement de féminisme musulman divers du reste, dans leurs histoires et dans leurs évolutions aussi, parce que ça c'est très important. J'ai lu dans l'article de Margot Bradran, que je récupère bien maintenant, que, par exemple, les théoriciennes, Amina Wadoud et Asma Barlas, etc., le fait d'Internet a fait que le livre s'est retrouvé dans le monde entier, qu'il a été traduit dans plusieurs langues, etc., etc., etc. Donc, Internet, oui, ça fonctionne sérieux. Mais Internet, ça fait pas tout. Internet, c'est un moyen de communication, hein, de relation, mais
Pour répondre à ta deuxième question sur l'efficacité des luttes réelles et concrètes sur les plans politiques, sociaux, etc., ça dépend des contextes et ça dépend des contextes politico-sociaux de là où se trouvent ces femmes. Par exemple, Sisters in Islam en Malaisie, elles sont vraiment, vraiment elles se coltinent le pouvoir politique.
C'est ça.
Le pouvoir politique et à l'intérieur du pouvoir politique, la façon dont ont été élaborées les lois et spécifiquement les lois du statut personnel, puisque ce sont les noyaux durs, ceux qui est le plus difficile à bouger. Et ça, elle se le coltine. Et Margot Badran montre un peu là où elles ont échoué pour l'instant, là où elles ont reculé et là où elles ont gagné. Bon. Les femmes du Nigeria, des femmes du Nigeria par exemple, alors elles, ce sur quoi elles ont insisté dans leur lutte et où elles y sont arrivées, c'est par rapport à tout ce qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de toute cette histoire, par rapport à l'adultère et par rapport à la lapidation, l'adultère, etc. Il était question d'une femme, je crois que c'est au Niger ou au Mali, je ne me rappelle plus. C'est dans, voilà, au Niger, bon, eh bien, au Nigeria, pardon, au Nigeria, moi je connais rien à l'Afrique subsaharienne, excuse-moi Nendela. Non mais sur les... voilà, et eh bien c'est grâce à leur mobilisation en tant que femme auprès d'imams qui au départ soutenaient que la lapidation c'était coranique et que qui se sont coltinés à la fois les textes et le contexte et la sanction qui devait tomber sur ça, que ça s'est pas passé. C'est-à-dire qu'elles ont, en même temps qu'elles ont, comment dire, j'allais dire sauver une femme, je ne sais pas comment il faut dire, qu'elles ont, voilà, elles ont travaillé à la réinterprétation de choses qui n'est. Bon, voilà. Ça, par rapport à la polygamie, c'est la même chose. Par rapport à l'Inde, on a eu des témoignages, il y avait une cassette extraordinaire de comment ces femmes qui veulent construire un lieu autonome de penser. De penser sur les plans, d'apprendre des choses sur les plans d'interprétation coranique, sur les plans sociaux, sur les plans de venir en aide à d'autres femmes pauvres, etc. Elle voulait se construire une mosquée, parce qu'une mosquée, c'est pas qu'un lieu où on prie, c'est un lieu de toutes sortes de transversal politico-social, etc., etc. Ça, bon, mais ça c'est les multilayers aussi. Bon, là. Et bien, il faut voir leur ténacité et en même temps tout ce qui est mis comme embûche au nom d'un religieux, qu'une mosquée de femmes, ça se fait pas, que les femmes. Alors là, pour le coup, les femmes, ça ne doit pas être séparé des hommes. Là, alors là, pour le coup, il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Il vaut mieux des mosquées de ségrégation où les femmes
à
sont...
À l'intérieur de la mosquée.
Disent rien, ils sont des... Oui, voilà, disent rien, quoi. Écoutent, s'en vont, etc., sont muettes. Que des lieux d'autonomie. Donc ça, c'est des bagarres qui, en même temps, les font se confronter à des interprétations coraniques, parce qu'on dira toujours, le Coran dit que, ou le Coran ne dit pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des... Bon, alors... Sur les plans des grands courants mondiaux, parce que l'islam c'est grand, hein, ça c'est dans beaucoup d'endroits, c'est un peu comme le christianisme, enfin je veux dire, c'est... Donc c'est évidemment un mouvement minoritaire, bien sûr, et qui en plus de minoritaire reçoit les attaques de toutes parts. Mais alors de toutes parts, hein. De courants musulmans, de courants laïcs partout dans le monde, de courants féministes, c'est-à-dire que, et je trouve que vu la multiplicité des facettes du combat, eh bien je trouve admirable qu'au bout de 20 ans, il y a eu 3 rencontres à Barcelone. Et ça m'amène à la troisième question, qui était 2 questions encore sur la France. et la nature humaine, et la nature féminine. Alors la France, eh bien écoutez, au premier congrès, enfin je vais vous le dire sur les plans très concrets, au premier congrès à Barcelone où moi je suis allée et où j'ai fait une intervention dans une interprétation coranique de la prophétie des femmes, eh ben j'étais tellement toute seule que heureusement que je parle anglais puisqu'il n'y avait même pas le français comme langue de communication. Donc voilà. Donc voilà, alors dans le contexte français, ben, il y a eu cette rencontre à l'UNESCO qui était un peu à la suite de ce qui s'est passé à Barcelone. Mais voilà, commission islamienne. Bon, mais je me demande si on pourrait. Enfin, moi, je rêverais, ben, ça me fait samedi, samedi ça, je rêverais d'une rencontre de féministes juives, féministes chrétiennes, féministes musulmanes, féministes laïques, féministes tout ce qu'on voudra, athées ou je sais pas, suivant, qui soient capables de monter ensemble un truc où elles expérimenteront des pensées différentes, mais qui soient dans cette espèce de pratique qu'on pratique à un tout petit niveau, mais qui est drôlement complexe, de la pensée du complexe, quoi. C'est-à-dire de la pensée d'une contradiction qui n'aboutit pas à une éradication.
Oui, c'est ça, c'est évidemment de l'éradication.
C'est exactement ça. Bon.
Qui est la pensée de l'islam
ben oui, et sur tous les plans, quoi, je veux dire, il y a des musulmans éradicateurs, il y a des fois, je veux dire, il y a, bon, mais cette espèce de mise en place de cette, enfin moi, j'ai un peu, comment vous dire ça, vous connaissez un sociologue, il y a tellement de sociologues ici, vous connaissez un philosophe, sinologue, qui s'appelle François Julien, les uns et les autres, ici, ou les unes et les autres. Eh bien, enfin, je trouve qu'il aide beaucoup, ce François Julien, parce que lui, il a décidé, du reste, le bousculement de la pensée, c'est de lui que j'ai entendu. Excusez-moi. Ce bousculement de la pensée, c'est de lui que j'ai entendu, parce qu'on lui demandait toujours, mais enfin, pourquoi en tant que philosophe, vous êtes tourné vers la Chine? Eh bien, vous savez ce qu'il a répondu? Quand j'ai eu mon agrégation de philosophie, en plus il était super, super doué, quoi. Enfin bon, il devait l'avoir, j'en sais rien, 20 ans, 21 ans, j'en sais rien. Bon, il s'est dit pour moi, le framework, le cadre de pensée de la pensée philosophe grecque, qui est mon héritage, mon attachement, bah quoi qu'il est de nous tous et nous toutes ici d'une certaine manière, je ne pense pas que la philosophie ce soit un endroit où on répète un cadre de pensée. Et donc, pour moi, penser, c'est automatiquement bousculer la pensée. Et je suis allée chercher ce qui me paraissait être complètement en dehors de ce framework de pensée qui est la philosophie s'est née en Grèce, etc., etc. Oh là là, mon Dieu, je ne sais pas comment il faut faire. Et je suis allée en Chine parce que ça me semblait que là, en Chine, la philosophie, les impensées réciproques des deux modes de pensée. Le nu dans la représentation dans l'art, ça va jusque-là, enfin c'est passionnant. Et moi, je trouve que ça aide. Alors c'est philosophique, c'est, oui, mais mon féminisme m'a appris que la théorie et la pratique, si c'était complètement séparé, c'était plus du tout du travail. Donc, la philosophie et la pratique,
c'est la fin.
Bon, voilà. Et alors, la dernière chose.
En disant que c'était la fin,
oui, mais alors justement, il faut que je réponde sur nature. Nature féminine, comment se débrouiller avec nature féminine nature masculine. Oui, alors, comment mettre en place cette pensée du complexe dans une plasticité de l'égalité-différence? Il faudrait qu'on fasse un colloque là-dessus, je pense.
Eh bien, c'est un beau programme. C'est un beau programme.
Non, moi, je vais être brève. Bon, certainement, je crois que l'idée de faire une rencontre de féministes au pluriel avec une réflexion, ça me semble un enjeu, mais je voudrais quand même reprendre plusieurs points qui ont été soulevés. D'abord, je crois que on l'a dit tout à l'heure, mais notre réflexion, notre engagement n'est pas un engagement aveugle par rapport aux rapports de force internationaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas des lobbyistes de ce type de voilà. Je crois que c'est très important, c'est-à-dire que nous sommes très politiques. Hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a pris les choses par un bout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune naïveté. Et il y a bien sûr dans un contexte qui est un contexte de fragilisation des droits, une attention particulière à avoir constamment. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler et ne pas l'oublier. De la même manière que nous sommes très conscientes du fait, je l'ai dit tout à l'heure, alors bon, j'ai parlé de bulimie, mais qu'on est quand même dans une situation, pour le coup, pas seulement au niveau international, mais également en France, qui est une situation de tension sociale, de modalités de sécession silencieuse à l'intérieur de la société qui me semble très inquiétante. Hein, donc dans laquelle toutes les modalités de repli et de soustraction à la dureté des temps se développent. Alors il y en a beaucoup, hein, et je dirais que c'est pas l'islam qui est la première des soustractions. La première des soustractions sont les anxiolytiques. C'est un certain nombre de choses comme ça, et dans lesquelles on doit être très attentif. Je veux dire, on n'est pas sur une petite planète de féministes voilées et non voilées, on est véritablement enracinés et engagés dans des formes de réflexion qui sont plus larges. Et ça m'amène au questionnement que vous avez eu sur l'islamophobie. Alors moi, je fais partie des gens, j'ai toujours eu une forte réticence à la division de la lutte contre le racisme en sous-catégories. L'antisémitisme, l'islamophobie, etc. Donc je suis très mal placée pour répondre à ce type de questions parce que je suis hostile à ça. Voilà. Je pense qu'en effet, il y a des atteintes islamophobes qui sont graves, contre lesquelles il faut se battre, mais je dirais qu'il y a des atteintes racistes générales qui sont monstrueuses et terribles dans cette société. Et que mon inquiétude... actuellement, j'en ai fait part à Isman, on a dit qu'on en discuterait, mon inquiétude actuelle, et je parle en toute liberté, ce serait de voir, comme je le vois, et je peux me tromper, une espèce de surenchère concurrentielle entre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, dans une espèce de voilà. Et ça m'inquiète beaucoup, parce que je dirais que c'est la victoire d'un combat antisémite assez borné, qui s'est considéré comme étant finalement le nec plus ultra du combat contre antiraciste, parce qu'effectivement, ce dont les juifs ont été victimes, c'est le pire du pire, et que ce faisant, une fois qu'on a posé ça comme l'aune à partir de laquelle le reste se décline, eh bien on rentre dans des logiques concurrentielles. Donc en effet, je crois qu'il faut se battre contre l'islamophobie, mais il faut surtout se battre contre le racisme, les discriminations, le rejet de l'autre, etc., les atteintes à la dignité dans toutes leurs formes. Bon, ça, je n'engage pas le collectif en disant ça, je m'engage moi, mais ça m'inquiète de voir cette espèce de... Alors, on a l'impression que en France et sur la planète, il n'y a plus que les juifs et les musulmans qui sont victimes d'offensives, et les deux combats héroïques sont ces deux-là. Non. Il y a en effet des atteintes islamophobes graves, mais je vous garantis que le racisme anti-black, il est monstrueux. Oui, enfin, je sais pas, c'est toi qui le dis. Mais il est monstrueux. Bon, et il est quotidien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons, bien sûr, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, mais nous avons sans doute à réinvestir le champ de la lutte contre les discriminations et contre le racisme, et être très attentif à la fragmentation dans laquelle nous nous embarquons, et nous nous embarquons peut-être tout seuls par nous-mêmes. Voilà. Donc, j'ai dit anti-noir. Oui, non, mais c'est parce que... Non, c'est parce qu'au moment où j'ai pensé à vraiment un truc précis. Mais tu peux être anti-noir ou anti-arabe.
Anti-arabe, noir, arabe-noir, si on le dit, c'est souvent négatif. Moi, j'aime bien qu'on dise noir.
Oui, mais anti-arabe, anti-noir, anti-femme, anti-homosexuel, enfin, je veux dire, de ce côté-là, on a de quoi faire, tu vois. Malheureusement. Mais en tout cas, il faut être très attentif à ce qu'il n'y ait pas une espèce de construction du combat qui hiérarchise la valeur de l'atteinte à la dignité et qui la décline évidemment vers le bas. Et vers le bas, c'est toujours les Noirs, effectivement, qui sont en bas, et les femmes noires en particulier. Et si elles sont musulmanes, alors là, c'est la catastrophe. Non, 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 mais c'est très, il faut faire très attention à ça. Voilà. Donc, voilà, c'était sur ce point. Et puis, le dernier point, et je m'en tiendrai là, c'est que je voudrais faire le lien avec ce qu'a dit Marie-Laure. Je peux dire que je ne suis plus féministe aujourd'hui comme je l'étais il y a 20 ans. Voilà. C'est-à-dire que véritablement, à la fois le collectif, mais ce qui s'est passé ces dernières années à travers la question de l'islam et de l'émancipation, m'a effectivement amené à revisiter mon engagement et sans doute à mettre en évidence que de façon sans doute vraisemblablement inconsciente, en tout cas inconsciente, en tout cas pas explicite, j'avais dans la tête une idée de ce que c'était qu'une femme libre. Et que les organisations dans lesquelles je militais, et je continue à militer d'ailleurs, parce que ça c'est pas simple pour les musulmanes, mais nous pouvons attester toutes les deux que ce n'est pas simple dans les lieux où nous militons, parce que on est gentils là entre nous, mais ça n'a pas été facile d'être taxé d'islamo-gauchiste féministe, c'est ça, dans certaines situations. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement que nous avons dû amorcer les unes et les autres, qui nous a mis, pour une part, en situation de fragilité par rapport aux pensées structurées et aux organisations qui ont des certitudes, je crois qu'à la fois c'est une posture de fragilité, mais je dirais de fragilité aussi dans le sens très positif, c'est-à-dire il y a quelque chose de précieux dans ce que nous inventons et dans ce que nous cherchons et dans les angoisses que nous avons parfois, parce que c'est pas du tout évident. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est au fond de pouvoir décloisonner ça, de pouvoir le réétendre, le revisiter. Parce que quand je regarde dans notre hexagone la façon dont les rapports de force sont construits, au fond, il y a maintenant un groupe de féministes musulmanes et non musulmanes dans un coin, et elles font leur truc, et elles ont leur bout de place dans les manifs, et puis il y a les autres qui font ceci, font cela. J'aimerais qu'on puisse, que ce soit à partir de cette commission ou d'autres choses, refaire bouger à nouveau les frontières qui sont en train de se reconstruire. Voilà, c'est tout.
Oui. Un monsieur de l'Union,
oui, sur la LDH. Ah oui.
À propos des bombardements de Gaza et des manifestations, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à Avignon, mais en tout cas, Yvonne, par exemple, a participé à un certain nombre de manifestations contre les bombardements de Gaza, et sur le plan national, a pu le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, vous avez une association de détention aussi, hein, qui est un moment que je vous parlais. Mais je ne sais pas ce qui va se passer à Avignon, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit à cause de la présence de gens qui avaient un couvert sur la tête qu'ils ne seraient pas jointes à telle ou telle manifestation. En revanche, et je vous invite à réfléchir à ça, il y avait des conditions d'objectifs de manifestation et de mots d'ordre dans les manifestations, et en particulier contre les bombardements de Gaza, etc. Mais aussi pour un État palestinien, pour les droits des Palestiniens et pour l'existence de deux États en Palestine. Ça, c'est une position qui peut-être était au centre de ces débats là-bas. Je ne sais pas exactement.
Bon, oui, un petit mot encore, juste un petit mot, parce qu'il est 35, oui. Allez-y, allez-y.
Le mot de la fin sera pour Ilhem Moussaï, donc du MPA à Avignon.
Je pense que beaucoup de personnes me connaissent.
Oui.
Je voulais simplement répondre à Hanen, qui avait demandé s'il y avait encore des raisons d'espérer, justement, qu'on montre un peu moins les musulmans du doigt. Pour ma part, en tout cas, suite à la polémique sur ma candidature, j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu du soutien de la part d'un rabbin, par exemple, qui ne me connaissait pas du tout, de la part de militants chrétiens, MPA ou pas MPA. J'ai vraiment... et moi, c'est ce qui nous pousse à continuer à lutter, à continuer à se battre, justement, contre toute forme de racisme, et dans l'islamophobie. fait partie. Donc justement, c'est notre grande bataille. Votre bataille, c'est de continuer jusqu'à qu'il y ait un changement, un possible changement. Et ça, c'est dans la déconstruction, justement, comme on disait, c'est dans les mentalités, c'est à l'intérieur qu'il faut... C'est là qu'il faut jouer, c'est pas seulement sur... C'est pas une seule candidature qui va changer l'esprit et tout ça. Je pense que c'est vraiment une lutte. Tous ensemble, on doit jouer. Donc c'était simplement pour répondre à la...
J'ajouterais que, pour citer une phrase d'une femme politique d'aujourd'hui, je m'intéresse à ce qu'elle a dans la tête, à ce qu'elle a sur la tête. J'ai beaucoup apprécié cette phrase.
Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Et
les initiés savent de qui je parle.
Alors juste pour finir, nous remercions nos deux intervenantes.
Oui, voilà.
Nous remercions aussi Rudy d'être venu. Merci à vous.
Voilà. Et on s'inscrit dans une suite de rencontres.
Vous nous avez laissé, pour ceux qui l'ont bien voulu, donc vos coordonnées afin d'être inscrits sur la liste large, donc la commission islam laïcité. Donc vous verrez circuler les infos concernant nos réunions ouvertes, nos séminaires publics. Et par ailleurs, ceux qui seraient intéressés pour être membres de la commission, sur la base de l'adhésion à notre charte, bien évidemment, donc nous sommes un espace ouvert à la diversité et à la divergence. Donc merci.
Super, alors ça, je te l'envoie. Super.